18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche 18h, 20h sur Beurre FM. Et une actualité extrêmement chargée. Première heure consacrée au football avec les différentes compétitions. On va s'intéresser aussi aux internationaux de chez nous hein, qui sont en pleine forme. Certains oui, d'autres non. Également à 19h, premier quart d'heure consacré à la solidarité et à la commémoration d'un événement du 17 octobre 1961 avec ce match qui s'est joué du côté de Nanterre. À partir de 19h15, le Trekking Gazelle, trois femmes seront sur ce plateau pour nous parler de cette aventure. Superbe travail préparatoire, j'ai pu consulter le dossier. Il est tout simplement énormissime. Sans plus tarder, je vais vous présenter bien sûr ceux qui vont passer ces deux heures avec moi.
Jusqu'à 20h, Fou de sport sur Beurre FM.
Bon, la voilà de retour, elle est en face de moi, ma très chère Nawal, bonsoir, comment vas-tu?
Bonsoir Mohand, est-ce que mon micro fonctionne?
Oui, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Ouais.
Ah bah super, bonsoir Mohand, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, ravi de vous retrouver. Bah, je viens de temps en temps.
Oui, mais... ben oui, voilà. La preuve, hein, tu es présente et puis... bon, tout le monde ne le sait pas, mais on est en contact régulier avec Nawal parce que je lui demande quand même certaines recherches, du travail pour pouvoir justement alimenter cette deuxième heure. Elle est toujours présente sur les pages des réseaux sociaux où elle fait quand même des écrits que vous pouvez consulter régulièrement. Il est toujours fidèle au poste. Eh bien, est-ce que j'ai lu, peut-être que lui ne l'a pas lu, mais quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte, et mine de rien, et je peux vous l'assurer, c'est que ce qu'il a fait n'était ni plus ni moins qu'un travail de recherche avancé par rapport à son temps, par rapport à son époque, car aujourd'hui, nous récoltons les fruits de ce travail, c'est notre coach national, Nasser Sandu.
Avant tout, je vais déjà saluer Nawal et lui dire c'est un grand plaisir de te voir à côté de nous. Sérieusement, tu nous as manqué. T'es très importante pour l'émission, tu le sais aussi bien que moi. Mais c'est bien que les gens le sachent et que tu es une femme extraordinaire. Merci d'être là, Nawal.
Merci infiniment, Nasser.
Alors, tu me disais, oui, le recherche, non, c'est pas plus que ça. Simplement, on réfléchit.
Tu es un vrai acteur du football, mais Nasser, c'est une évidence.
Ouais. Mais sache que j'ai encore vu du monde. Alors, je voudrais déjà saluer mon ami qui a perdu sa femme, Nasser Ben Ghanem,
oui,
qui est une personne d'Akoumou. Il a perdu sa femme il y a trois jours. On l'a enterré vendredi. Je lui ai apporté mes plus grandes condoléances à lui et à toute sa famille. Et j'ai eu tous les gens qui étaient... et tu peux même pas t'imaginer, je te promets. Ils sont tous, ils m'ont dit, on est tous derrière le dimanche, à 18h, on est tous derrière la radio, on écoute tout. Il me dit, tout ce que vous dites, c'est la vérité. Je dis, au moins, on t'a avec nous, on essaie d'être dans le vrai. Pas le vrai ou la vérité, mais on essaie d'être sensé.
Objectif.
Voilà, aussi. Tout à fait. Ouais. Très objectif sur ce qu'on voit, et on essaie un petit peu d'anticiper, parce qu'on sait un peu les rouages qu'il y a autour et comment ça peut fonctionner. Et c'est bien, parce que même en Algérie, ils doivent sûrement nous écouter, et on essaie de leur apporter un peu de nos compétences et de notre vécu, tout simplement.
Et puis, comme chaque dimanche, oui, non, il est plus toute l'actualité. C'est connecté puissance 5, donc il est capable de voir plusieurs choses à la fois, ce qui nous permet d'être réactif en termes de résultats, surtout dans l'après-midi. C'est Sofiane. Bonsoir Sofiane.
Vas-y. Comme tu me présentes en dernier, je vais pouvoir saluer Nasser, ouais. Te saluer toi, saluer Nawal qui est de retour, ça fait plaisir.
Merci Sofiane.
Je vais dans le sens de Nasser sur le sujet. Et ouais, effectivement, on est dans une après-midi de grosses affiches.
Exceptionnel, franchement. Moi-même, j'ai été un petit peu dérouté par les horaires des matchs. J'ai perdu
Comment tu peux penser qu'il y a des programmateurs à la télévision qui programment un Nice-Lyon à 13h, où ils font un désessai?
Tu sais que je l'ai oublié. À un moment donné, j'ai bien vu que c'était 13h. Ouais. Mais après, tu le sais bien que le dimanche, je suis à l'antenne. Ouais. J'étais pris. Ouais. J'ai oublié ce match-là.
Oui, mais le problème, c'est que les millions de gens qui regardent. Moi, je pense que c'est des essais qu'ils font. Tu sais, pour le fameux heure de 13h.
Ouais.
Pour jauger à peu près ce qu'ils ont. Mais tu as vu la qualité du match. Mais c'est ce qu'a fait Lyon, là.
Oui.
Au-delà du retour de Nice, qui, bon,
oui,
ça, c'est, on peut en parler. Mal, mais tu vois la qualité du jeu de Lyon. Je me dis, mais tu aurais fait un match à 20h, là.
Ça, c'est la patte de l'entraîneur de l'Ajax.
Ah oui, ah oui, ah oui. ce qu'il a fait là. C'est dommage que le résultat n'a pas souri, mais la qualité qu'il y avait à l'intérieur, c'était. J'ai pas connu Lyon, moi, mais sérieux.
On va dire encore que l'école française a battu l'école hollandaise.
Ouais. C'est ce qu'on va dire, ouais.
Ce qu'on va dire, c'est que l'Algérien, il a encore fait un croche-pied.
Oui.
Attends, il leur a fait la misère. Ouais, ouais. Il est rentré, il a fait des coups de. Coup de bled.
Ben oui.
Mais c'est vrai que sur l'égalisation, il doit décaler avant. Ouais. Heureusement qu'il marque. Hein.
C'est ça.
S'il marque pas, c'est pour lui.
Ouais. Mais après, Nasser, tu me l'as toujours dit, dans le football, il faut intégrer le facteur chance quand même.
Oui, c'est un facteur d'incertitude.
Ouais.
Le football, c'est de l'incertitude perpétuellement. Ça, tu peux pas dire, tu peux pas annoncer des choses comme ce soir. On va dire le match de Marseille. T'as une espèce d'émotion qui s'appelle l'incertitude et qui vogue dans le match. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Par contre, on essaye de. Ce qu'a dit notre ami regretté Tapie, il a dit il y a des données que je n'ai pas saisies, je n'ai pas compris. Maintenant, j'ai compris. C'est là qu'il a compris que les arbitres.
La main de Vatar.
La main de Vatar.
Tu sais, nous, on se rappelle de cette main de Vatar.
Voilà. Mais donc, il a compris comment les choses fonctionnaient. C'est qu'il a pris Beckenbauer, il a fait ça. Il a compris ça. Eh bien, dans le football, l'incertitude règne tout le temps. Il y a Barça, là. Là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas. C'est-à-dire que le Real, il peut avoir l'argent qu'il veut, le Barça, ce qu'il veut. Oui. Il y a toujours cette incertitude du résultat qui paye. Ouais,
parce que c'est les hommes qui sont sur le terrain. Les hommes sont sur le terrain. C'est eux qui.
Et ça peut basculer à tout moment. Tu ne sais même pas sur quoi. Aujourd'hui, on est sur des paramètres. En plus, tu as vu, tu as la VAR, tu as je sais pas quoi.
C'est pour ça que maintenant, on fait tout pour essayer de gommer le plus possible ces incertitudes.
C'est exactement ça. Le problème, c'est que tu essaies d'avoir des paramètres qui tournent autour pour que tu puisses éliminer chaque fois l'incertitude. Mais la grande incertitude pour nous, c'est l'arbitrage. Oui. C'est ça l'histoire.
Bien sûr.
C'est vrai qu'ils ont mis la VAR exprès pour combler un peu ça. Mais les gens qui ont de l'argent, ils disent mais non, on ne peut pas faire confiance à un mec qui a des problèmes de sa vie, qui vient sur le terrain et qui, parce que sa femme l'a acheté à coup de pompe hier, il va arriver sur le terrain, il va nous bousiller le match. Et nous, on a mis des millions sur la table.
Mais Nasser, c'est normal. Ça, il suffit juste de faire un petit retour en arrière. Il n'y a pas si longtemps de ça, d'ailleurs. Lorsqu'il y a eu cette demi-finale de Ligue des Nations entre la France et la Belgique, quand le bulldozer Lukaku avait marqué le troisième but, il avait un genou devant, l'arbitre au départ avait donné le but, c'est la VAR qui l'a annulé, et dans l'action suivante, c'est la France qui marque le troisième but et qui va en finale.
Tout à fait.
Voilà.
Et normal, t'as c'est, vu
c'est Oui, oui, normal. C'est passé normal.
Calcule l'incertitude là, tu vas voir.
Ouais. Et comme le disent les Belges, nous avons une génération qui est exceptionnelle, mais elle est maudite contre la France. Il y a une espèce de sourd là qui est passé, là, un joujou, hein, je sais pas d'où ce qui est arrivé, un gris-gris.
Sûrement. Hein.
Oui, bah oui.
Un complexe quand même.
Oui, oui.
C'est la France.
C'est possible aussi.
C'est le grand frère pour les Belges. Donc forcément, il y a toujours un complexe par rapport. Bah si, on le voit, hein, tu vois, c'est comme. Fut un temps les Allemands et hop le deuxième but du Real c'est qui marque.
Ah voilà nous sommes en direct.
Lucas Vasquez bon on peut dire que c'est plié là c'est.
Bon ça y est c'est plié puisque maintenant si
on est dans un jeu il y a 7 minutes contre attaque éclair du Real.
Voilà. Aujourd'hui il y a de gros matchs de toute façon tout à l'heure on fera la synthèse de ces résultats un petit peu avant 19h.
Je te disais ouais il y a un petit complexe entre des Belges et des Français. C'était un peu comme avant, on dit que les Hollandais ont un complexe vis-à-vis des Allemands. Je ne sais pas si vous en avez entendu, Nasser. Comme les Italiens, les Allemands ont un complexe vis-à-vis des Italiens, parce que dans toutes les confrontations germano-italiennes, les Italiens sortent vainqueurs.
À l'époque où tout le monde disait que la Hollande, c'était le meilleur football au monde, leur bête noire, c'était l'Allemagne, de Gerd Müller, Beckenbauer.
Ouais, tu as cette espèce d'alignement de planète là, qui se met sur des. Sur des pays, et chacun a son
histoire.
A son histoire avec tous les pays. Le problème, c'est que les Belges, tant qu'ils resteront dans le respect de. Tant qu'ils vont rester dans le respect de la France, eh ben, ils vont être.
C'est ça.
Ils vont se faire balader de droite à gauche. Tant qu'ils ne vont pas créer une révolution en eux et de plus accepter ça, cette souveraineté, eh ben, tu vas voir qu'ils vont être capables d'aller gagner l'équipe de France tous les jours. C'est pas d'aujourd'hui, hein, France-Belgique, les 5-0, platine.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Il y avait une très belle équipe de Belgique en ce moment-là.
À l'époque, oui.
Qui avait fait la demi-finale en 90, ça, ou en 94
Non, ils ont fait la finale en 80.
Ouais, demi-finale, Coupe du Monde.
Oui, Coupe du Monde.
Ils avaient battu les Russes, rappelle-toi, le fameux match que vous avez battu les Russes.
Ouais.
Bref. Et voilà, c'est la subordination. Tu es subordonné à un pays, à un État, et tu te ranges en dessous, et ben ça. dans les comportements, ça se suit.
Toute proportion gardée, c'est un petit peu comme les pays d'Afrique francophone avec la France, puisque tu parles la langue. Mmh. Donc quelque part, tu es face à au pays mère, au pays père. Donc forcément, t'as un complexe par rapport à ce pays-là.
C'est ça.
Les Belges, c'est un peu ça. Les Belges, les Suisses, c'est
ouais, ça. Ben s'ils veulent se bouger, ben ils ont pris Lukaku, il faut en prendre un autre.
non mais attention, les Suisses ont réussi à le faire quand même. Hein, en les éliminant même au tir au but, et ils ont quand même éliminé l'équipe de France à l'Euro. Hein.
Ouais.
Voilà.
Ça, c'est le côté suisse alémanique qui a parlé.
Oui, voilà, exactement. Le côté suisse alémanique, franchement suisse. Il y a le côté francophone alémanique.
Il y a un match de foot, il y a un match de
italien.
Ce qu'il apporte comme discussion, comme relation derrière le match, pendant des années, tu as cité des années, un match qui était lambda et qui prend une telle proportion. C'est fou. C'est incroyable ce que fait le football. Incroyable.
Très bien.
Jusqu'à 20h. Foot au sport. Sur Beurre FM. Beurre FM.
Bon. On va commencer à parler maintenant des joueurs. Durant la semaine, vous avez suivi des matchs de Coupe d'Europe, de championnats, etc. Nasser, moi j'ai été impressionné par d'abord Riyad Mahrez, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. On a l'impression que quand j'entends les footiques, ouais, Guardiola le met remplaçant, j'ai dit, mais attendez, il n'est pas dans un championnat à 30 matchs par saison. C'est des 70 matchs, c'est Michael plus les matchs internationaux. Mm-hmm. Heureusement qu'il ne les fait pas, sinon il va craquer au niveau de sa santé. Mais le plaisir qu'il nous procure aujourd'hui, Riyad, sur un terrain, est tout simplement sans commune mesure. Ouais.
Ouais. Mm-hmm. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est juste. Si ce n'est que Riyad, pour moi, comme tous les maghrébins, c'est des garçons qui éclosent très tard. Et tu vois encore Karim Benzema, il a 32 ans, 33 ans, on dirait qu'il a 20 ans.
Ouais.
Il court. Je regardais Riyad, même s'il a perdu un peu ses joues là. on l'a vu quand même avec une maîtrise
c'est ça.
De l'outil, du ballon qui est. Je crois qu'il doit faire partie des 10 meilleurs frappeurs aujourd'hui. Le pied gauche, là, ce qu'il fait avec le pied gauche, on l'a vu en Algérie, là, avec le coup franc qu'il a mis, je l'ai vu encore hier en Coupe d'Europe, je l'ai vu hier en championnat, il a atteint une puissance. Il est comme Messi, je crois qu'il est dans le moule de Messi. C'est des joueurs qui jouent au football, ils sont tellement amoureux du ballon et du jeu qu'ils ne s'arrêtent pas de jouer. Ben, il l'a dit plusieurs fois, il l'a dit que Riyad, c'est un garçon, dès qu'il trouve un terrain, il voit deux mômes, il prend le ballon, il va jouer tout de suite. Hein. Il va faire un match, il n'a rien à foutre lui. Hein.
Ah oui.
Ah oui, Riyad, c'est ça son truc. Il y a un match là dans la cité, on va, il descend tout de suite, il va jouer avec. Ah ouais. Rien à faire, son statut et tout ce qu'il en est lui.
Bah, on l'a vu en Algérie. Hein, ouais. Ouais.
Il oublie carrément.
Ouais. Ah oui,
en claquette.
Voilà, il joue, dès qu'il y a un ballon, il joue. L'entraînement, il te dit, il n'arrête pas. Après, moi j'ai vu, il atteint une maîtrise du jeu, j'attends de voir confirmer sur les prochains matchs. Mais ce que j'ai vu sur la maîtrise du ballon propre avec lui, c'est unique.
Ouais, c'est très fort. Ouais.
C'est unique. Moi, j'en ai pas vu en faire la même.
Alors, tu sais que Mahrez, petite information qui a son importance, petite statistique, puisqu'on est là pour ça. Mmh. Il est devenu ce mardi officiellement le meilleur buteur de l'équipe, le meilleur buteur algérien de l'histoire des Coupes d'Europe.
Des Coupes d'Europe.
Ouais. En dépassant Rabah Madja.
Ah, il était temps.
Voilà. Il est passé à 13 buts, donc voilà. Pour sans doute que.
Donc, c'est un immigré qui a repris le poste.
Mmh. Ah, comme le poste d'entraîneur. Hein.
Ouais.
Le premier entraîneur immigré de l'équipe d'Algérie, c'est Nasser Sanjak.
Ouais. C'est ça.
Ah ouais. Bah, ouais.
Ouais. Bah, il faut le dire.
Oui. On va trouver comme les stats, on va trouver avant 1980.
Ouais, et après, 2025. Oui.
T'as vu, ils vont trouver toujours une histoire.
C'est quand même une belle aventure.
Ouais. De toute façon, pour que tu aies une grande équipe, pour que l'équipe d'Algérie grandisse comme a grandi, il te faut obligatoirement un très très grand joueur. Tu l'as. Les gens en parlent peu. Jamel le dit, mais je trouve qu'il ne le dit pas assez aujourd'hui, parce que ça donne toujours l'impression d'être du père.
Oui.
Il faut lui donner, moi, ce que j'ai réussi à faire quand j'ai avec l'équipe nationale, c'est que j'avais Moussa Saïb avec moi, et je savais très bien qu'il était lui, ce qu'il faisait, ce qu'il a apporté au football français, ce qu'il a apporté à Auxerre, ce qu'il a apporté réellement dans son parcours, parce qu'il a fait un vrai parcours. Et c'est cette grandeur que les Français rendent. Que les Européens rendent aux joueurs. En Algérie, ils ne rendent pas. C'est toujours quelqu'un qui veut essayer de gratter l'image ou gratter derrière Riyad. C'est lui qui fait l'équipe d'Algérie. Si tu ne l'as pas, tu n'as plus d'équipe d'Algérie. Moi, je te le dis.
Mais je l'ai vu sur les deux matchs contre le Niger. Et il est à l'origine de la majorité des buts. Et bien sûr, il en a marqué, etc. Et quand tu dis en plus, tu as l'impression qu'il ne force pas.
Mais même contre le Burkina Faso, Mohand, oui. Parce que quand tu regardes bien, il est moins bon contre le Burkina. Début ouais. de saison, c'est ouais, normal, ouais. On fera une phase de reprise. Et l'équipe d'Algérie, ça s'est ressenti tout de suite sur son jeu. Ouais. À Marrakech, le match qu'on fait.
Oui, bien sûr. Non, mais faut bien comprendre ce que c'est qu'un grand joueur. Si les gens n'ont pas compris, c'est l'homme qui te fait gagner les matchs. Si t'as pas de grand joueur, tu ne gagnes pas les matchs. Tu ne gagneras rien.
Dans un instant, après la pause, on va parler de Ismaël Bennacer, qui revient en très grande forme au milieu de terrain du Milan AC, et le retour aussi de Youssef Attal. Ça commence à sentir bon, les derniers matchs éliminatoires de Coupe du Monde, l'arrivée de la CAN. On a tous besoin de voir nos joueurs en pleine forme. Et puis, on vous dira aussi pourquoi Vahid ne veut pas que trois joueurs reviennent en sélection, notamment, enfin, on a parlé de Ziyech, mais surtout, du superbe défenseur de l'Ajax d'Amsterdam qui a été très très fringant en Coupe d'Europe, à savoir Mazraoui.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM.
Allez, avant la page Ismaël Bennacer, Youssef Attal, Vahid, eh bien, mes chers amis, on se fait un petit point résultat. D'abord, le Real de Madrid qui s'impose dans le grand classico de la Liga, à Barcelone même, face au Barça. Score 2-1. Donc, on va dire que le Real creuse un peu plus maintenant l'écart sur un Barça. Cette année, un petit peu moribond, mine de rien, c'est pas un grand Barça. Mais le Real est présent. Chaque année, on dit oui, le Real. Là, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais il y a quand même un chef là-bas qui s'appelle Karim Benzema. Et pour l'instant, c'est une mécanique qui tourne bien.
Imagine, tu aurais Mbappé avec eux là.
Ouais.
C'est tout de suite à la Ligue des Champions pour la gagner. Non, c'est très organisé. C'est. Le Real, t'as vu, le président, il est ce qu'il est, on parle comme on veut de lui. Hein. Zidane s'en va, il ramène Ancelotti, il sait de quoi il a besoin, il le ramène et Ancelotti répond tout de suite. Hein. Et lui, Ancelotti tire beaucoup d'enseignements sur ce qu'a fait Zidane. Hein. Il leur a dit en conférence, il a dit si je gagne 4, c'est 4. Hein. Si je gagne 3 ou 4.
3 d'affilée.
Ouais, 3 d'affilée, tous les jours je prends. Hein. Ah, oui. Tous les jours je prends. Mais j'ai jamais fait ça, moi, de ma vie. Pour t'expliquer que l'entraînement entre eux. Et Ancelotti, il fait ce qu'il doit faire. Il le fait bien. Donc je sais que c'est un très grand coach. Donc c'est pas. C'est, il tourne sa bourrique partout. Il va dans les quatre coins d'Europe. Il est un coup en Italie, un coup il est en Angleterre, un coup il revient en Espagne. Il fait que ça. Mais bon, plus il vieillit, on se rend compte que plus il est de plus en plus pertinent. Là, j'ai vu encore un peu le Real. C'est pas mal. Hein.
Ouais.
C'est pas mal.
Non, parce qu'il y a eu pas mal de jeunes à l'époque. C'est Zidane qui les avait lancés, là.
Ah, bien sûr, c'est lui qui l'a lâché. Lui, il l'a repris, mais je demandais à Sofiane, c'est qui l'axe central de Madrid. Il m'avait l'air très intéressante. Hein. Ramos est parti, Varane est parti. Tu remplaces. Mais on avait eu déjà des signes du Real, là, quand il y a eu les blessures de Ramos et de Varane. Il y en avait eu deux, moi, qui j'ai demandé aussi à Sofiane. Et leur nom et tout, je l'ai trouvé très intéressant. Et là, on le voit. Hein, et il menait 2-0. Hein. C'est bon. Après,
ils ont mené 2-0.
Ouais, dans les arrêts de jeu, ils ont pris les arrêts
à la fin du match. Ouais.
Et là, ils sont en train de défiler Liverpool. Ouais. il y a une boucherie actuellement qui est en train de se mettre en place.
Alors, justement, pour l'instant, c'est un score à la mi-temps. Ouais. On joue à Manchester. Liverpool est en train d'atomiser United. C'est le terme hein, qui a 4 rassures à la mi-temps. C'est, avec encore une fois un Mo Salah. Voilà,
j'entends l'arrivée de Zidane à Manchester United.
Oui. Bah, c'est un bruit qui a couru, Nasser.
Oui, il court encore.
Ouais. Oui, par rapport à Solskjaer, c'est ça?
Bah oui, mais.
C'est un ancien joueur de. Solskjaer, c'est un ancien joueur de United. Et danois. Hein.
Manchester United est le club le plus riche du monde.
Oui, ça c'est vrai. Ouais.
C'est eux qui ont tout ce qu'il faut.
C'est vrai.
Ils achètent qui ils veulent, eux. Ouais. Bah, tu vois,
ils ont largement les moyens de payer qui ils veulent.
Ils ont un gros effectif en plus qui siérait tout à fait à Zizou.
Ah,
avec Paul Pogba, avec des joueurs qui ne jouent pas là.
Marcus
Rashford, ce genre de mec. Cavani ne joue pas par exemple. Ce
serait bien qu'il refasse la même chose à United.
Oui.
Ouais.
Bah, on attend, puisque si ça continue comme ça, je pense que Solskjaer va préparer ses valises parce que.
Ah, s'il prend 6 là.
Oui, parce que déjà. Mort, hein. Parce que déjà, tu prennes 4 buts à la mi-temps, c'est énorme. Une équipe comme United.
Bah normalement, t'es parti pour 10 là.
Mais après, c'est vrai que là, sur ce qu'on voit, il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Hein. Ouais. Même Ronaldo, qui manque de prendre un carton rouge là, sur la fin de la mi-temps, qui est en train de perdre ses nerfs aussi. Ouais. Donc là, il y a clairement. On l'avait vu hein, pour Ligue des Champions cette semaine, parce que tu parles des matchs avec l'Atalanta Bergame. C'est une autre équipe, Nasser, façon Leipzig, l'Atalanta, avec Gasperini.
Oui, belle équipe. Hein.
Ouais. Qui perd 3-2, mais il ne mérite pas de perdre. Enfin, ouais. Ça veut rien dire en football, tu me diras. Ouais. Il perd 3-2, encore une fois, tu te demandes comment c'est United qui est sauvé sur le gong par Cristiano encore avec une détente verticale d'un mètre
50. C'est ça, c'est ça.
Et c'est vrai que Solskjaer, lui, il mange depuis 3 ans sur l'élimination contre le PSG. Tu sais, ce match au Parc des Princes où Manchester, je ne sais pas comment on se qualifie, ouais. Avec la main de Kimpembe d'ailleurs. Oh.
Notre ami.
Et depuis 3 ans, bah, il mange là-dessus.
De toute façon, c'est simple. Là, l'étude de parler de Kimpembe, puisqu'à chaque fois qu'il joue, il y a pénalité pour l'adversaire. c'est un classique. Hein. On va revenir maintenant, justement, à un garçon, c'est Ismaël Benacer. Il a été longtemps malade. C'est vrai qu'à un moment donné, on se posait des questions, on ne le voyait pas dans l'effectif, etc. Il a pris le temps de se soigner. Il revient, doucement mais sûrement. Et là... il a déjà marqué 2 buts. Hier, on a vu en Liga contre, c'était à Bologne. Non seulement il marque le fameux 3e but, mais il est sur la passe décisive pour Zlatan Ibrahimovic sur le 4e. Et déjà depuis quelque temps, on le voyait de plus en plus dans le jeu du Milan AC. Et il commence à reprendre sa place de titulaire qui lui manquait avant.
Ah non, Benacer, c'est... Il a été élu, vous avez peut-être oublié, mais il a été élu joueur...
Meilleur joueur de la CAN.
De la CAN, bien sûr. Donc, c'est pas le hasard. C'est un garçon... moi, je l'écoute un petit peu en interview. Il est très simple, il est très naïf, on le sent. Mais c'est un garçon qui a appris à travailler. Et n'oublie pas qu'il a fréquenté quand même les grands clubs. Hein. Mmh. C'est Arsenal. Et là, il remonte en plus avec la maturité. Ce que tu dis, chez nous, c'est un peu plus tard que ça arrive.
C'est ça.
C'est toujours plus tard.
Tu l'as toujours dit, ça, Nasser, dans cette émission.
Voilà. C'est toujours plus tard qu'ils arrivent, la maturité, et on voit arriver. Et donc, des garçons comme Benacer qui arrivent là, ça va être des futurs leaders de l'équipe d'Algérie, ça, dans très peu de temps. Même si je pense que Mahrez va pouvoir jouer au moins, je sais pas quel âge il a, 32.
Il va sur les 31, ça, 91,
ouais.
Mahrez.
Bah, il peut faire encore une Coupe du Monde, 35. Il peut encore refaire une Coupe du Monde. Donc, tu as des joueurs qui sont comme ça. Et le petit Benacer, il a ce que les prodiges, ce que j'appelle les très grands joueurs, ce que les autres n'ont pas, qu'ils n'auront jamais, ce qui fait la différence. Et tu le vois dans le jeu. Et quand je dis dans le jeu, dans la passe, dans les contrôles, dans les courses, ils font des choses que les autres ne feront jamais. Parce que ça ne vient pas dans la tête. Eux, ça rentre toujours.
À qui tu peux l'associer dans la sélection aujourd'hui, Benacer, de par son positionnement sur le terrain? On sait que Jamal aime bien un milieu à 3. Ouais. Tu lui mettrais qui bon, aujourd'hui, bon, il y a Sofiane Feghouli, mais je pense que Sofiane est un peu sur le déclin, contrairement à Ismaël Benacer. Adeline, qui était un petit peu la tour du contrôle devant les défenseurs, n'est plus là. Donc, il manque 2 pions, là, aujourd'hui, pour assurer cette sécurité à la sélection algérienne, Nasser.
D'accord avec toi. T'as tout résumé. Moi, quand je regarde Benacer, il me fait penser à Ardiles.
Ah oui.
L'équipe d'Argentine, là.
Osvaldo, ouais.
Et ce joueur qui avait... Tu sais, ce fameux joueur, c'est comme tu dirais, le top joueur, c'est un attaquant qui marque des buts, qui fait marquer et qui défend. Ça n'existe pas. Ce milieu-là, c'est un garçon qui défend et qui casse les lignes et il marque de temps en temps.
C'est ça.
Donc t'as toute la paillette, tu vois, la plénade de qualité autour de ce joueur-là. Il défend comme une bête. Dans la relance, c'est toujours du top niveau. Il casse les lignes. Lui, il casse les lignes par le ballon. Il casse les lignes par lui-même, par ses accélérations. Donc là, tu es sur un joueur de haut calibre tout de suite. Hein. Ça te ramène à dire, tiens, ce garçon-là, c'est haut. C'est pas le hasard qu'il est au Milan. Le Milan, les Italiens ne se trompent rarement. Jamais ils se trompent. Moi, j'ai rarement vu une erreur de casting sur un joueur. Et quand tu l'as avec toi, et quand il vient après, il revient en sélection, il vient avec la rigueur italienne, avec ce qu'il a pris au Milan.
C'est ça.
Riyad vient avec ce qu'il a pris avec City là. Voilà, c'est comme ça que tu vois les choses. Slimani va venir avec ce qu'il apprend à Lyon. Il y a que ceux qui ont des clubs un peu moins huppés qu'ils n'apportent pas. Mais ça, je l'ai appris quand Platini a publié que l'équipe de France quand a fait son éclosion en 84, c'est quand Platini a signé à la Juve. Hein. Mm-hmm. Quand il est à la Juve, il est sur la méthode italienne. Et là, il a compris ce que c'était que de travailler, de faire l'effort, le travail, surtout son travail physique. Zidane l'a compris quelques temps après parce qu'il a la fameuse anecdote où il a vomi comme un malade. Et il a compris que Lippi l'a transformé complètement. C'est le football italien qui l'a transformé. C'est dommage que ça, Benzema, j'aurais voulu qu'il fasse. Quand il est parti de Lyon, j'aurais voulu qu'il parte en Italie. Il aurait fait 2-3 ans là. Je ne pense pas que sa carrière aurait été la même aujourd'hui. Je ne pense pas.
Parce que dès qu'il est parti au Real, c'était vraiment pour être un petit peu le.
Bah oui, il l'a été.
Le pourvoyeur.
Ah oui. Voilà, c'est ça, il l'a fait. Mais il se rend compte qu'il aurait dû le faire depuis longtemps, ça. Il aurait eu un peu plus de ballon d'or.
C'est ça.
Il a suivi toi aussi Bennacer,
Bennacer au Milan AC associé avec Kessié.
Ouais.
L'autre. Donc,
Ivoirien.
Ivoirien. Je crois que c'est en 4-2-3, Milan AC. Donc c'est Kessié qui fait le double pivot. Ils ont perdu à Porto, il me semble.
Oui, ils ont perdu, ouais.
Mais ils font 3, puisque le Milan, un club qui a quand même 7 Ligue des Champions et qui a eu un passé européen. En 2005, je crois. En 2007, pardon. Mm. Et qui a quand même un passé européen avec des grands joueurs et qui était parvenu en Ligue des Champions depuis presque 7-8 ans. Donc c'est un retour à Ligue des Champions dans un groupe qui est extrêmement difficile. Moi, j'ai suivi les 3 matchs de Bennacer dans les 3. Donc l'Atlético, Liverpool et Porto, et à chaque fois il joue son match, il fait son match, et tu tombes contre l'Atlético, tu finis à 10.
C'est ça.
Donc mais pourtant il avait fait un sacré match aussi.
Ouais.
À Liverpool il perd 3-2, mais contre le Liverpool actuellement qui est touché par la grâce.
Oui, qui peut l'arrêter, oui.
Voilà. Et il joue ce match aussi, et contre Porto on sait comment c'est difficile, sauf pour Liverpool d'ailleurs de se déplacer là-bas au Portugal. Donc Non, c'est une pièce maîtresse au milieu de terrain. C'est dommage qu'on n'ait pas un Franck Kessié en équipe d'Algérie.
De toute façon, l'équipe d'Algérie serait inarrêtable. Hein.
C'est clair.
Si on avait un joueur comme Kessié, oui. Mais non, mais c'est vrai.
T'es en train de construire l'équipe du reste du monde là.
Ah ouais, non, mais il est énorme. Quand je vois Kessié jouer, c'est vrai qu'il est énorme. Il est énorme.
Là, t'as Rome là, qui vient de louper 1-0 contre Naples. Ouais. C'est un grand match aussi, Rome-Naples.
Oui. Aujourd'hui, on a vraiment un après-midi exceptionnel en matière de match. Hein.
Ouais,
bien sûr, avec ce soir, pour finir, le Classico Marseille-Paris-Saint-Germain.
En espérant.
Bon, alors maintenant, on va passer à notre ami Youssef Attal, qui revient bien. Il était remplaçant, joker de luxe, mais qui fait basculer le match contre Lyon, un Lyon qui était très fringant, Lyon qui joue comme l'Ajax d'Amsterdam, puisque l'entraîneur Peter Bosz est néerlandais. Sauf que là, il y a Attal qui rentre et qui change un petit peu la physionomie du match.
Ouais, il a apporté. C'est étonnant quand même que l'entraîneur n'a. En général, quand tu fais rentrer des joueurs comme ça, toi, tu fais rentrer le joueur qui va le contrer tout de suite. Parce que tu sais que c'est un truc qui percute, tu vas faire.
Oui, c'est ça. Ouais.
T'es en fin de match. Ils ont fait un match jeudi, ils ont fait un grand match à Spartak de
Prague. Oui.
Qui est une ex-grande équipe,
ouais.
Aujourd'hui on n'entend plus parler.
Bien sûr.
Et il met penalty, il marque le but, il fait faire un penalty, il retourne le match à lui tout seul. Ça, sur le plan tactique, ouais. Là, tu dis que l'entraîneur, il a pas compris. Quand tu fais rentrer Attal, tu fais rentrer aussi un joueur aussi frais que lui, qui s'occupe de lui. Et là, il n'y a pas ça. C'est ça la gestion aussi de ces matchs-là.
Normalement, le staff technique, qui est sur le banc de Lyon, connaît quand même les qualités de Youssef Attal.
C'est dommage que Lyon a fait un grand, grand match. Ils ont étouffé Nice, on ne les a jamais vus dans tout le match. Tout le match, j'ai rien vu. J'ai vu à la fin. En plus, c'est Sophie qui me dit c'est Attal. Je n'ai même pas vu. Je ne sais même pas qui joue en plus.
Il l'a fait rentrer, ouais.
Oui, il l'a fait rentrer, je ne sais pas combien.
À 20 minutes de la fin.
Maintenant, nous avons Galtier, meilleur entraîneur de France.
C'est ça.
Voilà.
Après, c'est peut-être pas bon signe pour Attal. Hein. Quand tu rentres comme ça en fin de match en joker de luxe.
Tu vois la casquette du
remplaçant.
Du miracle.
Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que sur ce que dit Nasser, puisqu'on en discutait par téléphone, je trouve moi que. Alors tu vois, comme quoi le football, ça te réserve des scénarios assez incroyables.
Toujours,
parce que si tu regardes le résultat, tu te dis Nice, c'est fantastique. Et Nice, c'est pas la première fois cette année, parce qu'ils avaient fait un match à Nantes aussi, où ils sont dominés, ils prennent énormément d'occasions contre eux. Et il gagne le match 2-0. Donc là, on va faire de Galtier, comme tu as dit, un maître tacticien. Mais c'est vrai que sur le match, on dit de Nice que c'est une équipe qui doit jouer le top 5. Si tu te réfères juste à la première heure de jeu ou 75 premières minutes. Franchement, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Lyon est largement au-dessus. Et Lyon a même des occasions, bah, justement avec Kadewere qui a pris carton rouge pour mettre le troisième but. Ils ne le mettent pas.
On sait que les attaquants ne savent pas tacler.
Mais le problème, ce qui se passe actuellement, c'est les horaires de match.
Oui, mais c'est ça qui me même moi-même. Je suis Nasser un petit peu dérouté à la vérité.
Voilà,
hein.
Mais quand tu habites Nice, la Côte d'Azur.
Oui. Hein, la lumière.
Tu me comprends. Ouais. Et que tu. Le lendemain, tu as le match à une heure. Et que toi, tu es. Bref. C'est compliqué pour se lever. C'est compliqué pour se lever. Voilà, parce qu'il faut que tu te lèves à 7h ou 8h du mat. Quoi. Il faut à peu près entre 6 et 8h pour que le cerveau soit au top, qu'il soit éveillé. Et là, là on voit Nice. Moi, j'ai rien vu. Hein. Même notre ami Delors, j'ai regardé.
Il était titulaire. Hein.
Il a marqué sur Péno.
Oui, mais bon.
C'est un pénalty.
Ouais, sur le match, il n'a pas pesé. Bon, après, toute l'équipe qui n'a pas pesé. C'était beaucoup plus fringant, Lyon. Ça jouait beaucoup plus vite. C'était plus...
Et pourtant, Lyon a joué jeudi en Coupe d'Europe.
Ouais.
Donc, ils ont eu vendredi, samedi, ils ont eu 48 heures de repos avant de jouer un match dimanche à 13h, comme il l'a dit d'ailleurs.
C'est ça.
Ça, t'as deux écoles sur l'histoire de la Coupe d'Europe. T'as l'école qui te dit quand on perd, c'est à cause de la Coupe d'Europe parce qu'on n'avait pas de rythme. Mais t'as ceux qui te disent que justement, t'as joué dans la semaine, donc t'es encore dans le rythme du match que t'as fait. Puis ils ont fait un sacré match Lyon, qui sont encore, si tu veux, dans l'énergie de ce match-là. Et bah, sur le match, franchement, ça s'est pas vu que Lyon avait joué un match de Coupe d'Europe.
Ouais. Marseille a joué
jeudi. Jeudi, ouais. Voilà. À Rome.
Et Paris a joué.
Mardi.
Mardi contre Leipzig. C'est ça.
Ouais.
Bon, si tu fais, tu calcules, t'as Paris qui a 48 heures de repos de plus par rapport à Marseille. Est-ce que ça va avoir des répercussions, par exemple, lors du Classico ce soir?
Il faut demander ça à la télévision, puisque ceux qui imposent les horaires de match, les journées de match. Non, mais c'est eux. Eux, ils en ont rien à foutre de tout ça. Ils te mettent des joueurs. T'as 28 joueurs, tu te débrouilles avec tes joueurs, tu mets qui tu veux sur le terrain. Non, il faut les deux matchs. Et les deux matchs, ils les font. Et t'as vu l'audience, je sais pas, en termes de millions de téléspectateurs.
Ah, c'est sûr.
Ce soir, ça va être terrible.
Alors, faut que tu saches que la seule défaite du PSG cette année en championnat, c'était à Rennes.
Oui.
Et pareil, Rennes avait joué la Conférence League le jeudi, Paris avait joué la Ligue des Champions le mercredi,
ouais,
ou le mardi. Et Rennes, ça a pas empêché Rennes de gagner, donc je sais pas si.
Et le match a eu lieu à 13h, il faut savoir que le vendredi soir, il y a eu une grande festa chez notre ami.
Chez Verratti.
Si. Ça y est, on a compris.
Voilà.
On a compris.
C'est bien que les gens sachent, parce que comment ça va donner de.
Bah, quand tu viens à Paris, par définition, tu fais la fête quand même.
Ouais, bah, tu le dis pas, mais tu le fais.
C'est la capitale de la fiesta, mais la sœur, tu peux te cacher comme tu veux. Mais la fiesta, elle se fait à Paris.
Bah, bien sûr.
Covid ou pas Covid.
C'est clair.
Ouais. De façon un petit peu comme ça, visible ou cachée, la fête, elle a toujours lieu.
Bon. Ouais, c'est clair.
Ah, c'est pour ça que Giroud, à l'époque à Auxerre, lui, il voulait que ses joueurs à 20 ans soient mariés pour être casés, etc. Qui surveillait un peu ce que faisaient les joueurs.
Il avait même un pote à lui qui travaillait au péage d'Auxerre.
Bah, tu vois.
Ah ouais.
Le joueur qui montait sur Paris.
Le mec qui montait sur Paris, il passait sur le péage.
C'était
Giroud. Ah, il a compris, hein.
Ouais. Ah oui. Très bien, messieurs. Ben, fin de cette deuxième partie. On marque une pause. Dans un instant, troisième et dernière partie, avant d'entrer dans la deuxième heure qui est consacrée, comme je vous l'ai dit, solidarité, de Trekking Gazelle. Et puis, voilà, il y a d'autres infos qui vont arriver tout de suite.
Foot de sport. Revient dans un instant sur Beurre FM.
Bon, troisième et dernière partie de cette première partie, messieurs, dames. On a vu, là je viens de voir dans la compo d'équipe du match là qui se joue tout de suite entre la Roma et Naples, que Fawzi Rolem est sur le banc des remplaçants.
Ben, c'est temps.
Ouais, ça fait une éternité qu'il n'a pas rejoué. Donc on se pose quand même poser des questions. Non, alors donc tu es en train de m'annoncer que Liverpool a marqué un cinquième but.
Ouais, c'est ça.
Et ça là.
Donc, encore ça là ?
Ouais.
Ah ouais. c'est simple, même si je n'ai pas vu ça, quand je rentre chez moi, il y a un résumé sur YouTube. Un
replay.
Un replay, je vais voir ça.
Ouais. On le voit en direct.
Ouais. Non, mais est-ce que d'abord les buts de marque, généralement, ils sont beaux. Hein.
Oh, là, c'est un ballon en profondeur.
Ouais.
Alors, on va voir là.
Il a cette facilité de contrôle, tout ça.
Ah oui.
Mais Nasser.
Mais tu as écouté, comment il s'appelle ? Tu as écouté. Comment il s'appelle ? Drogba,
oui.
Qui parle de lui. Il disait quand il était à Chelsea avec eux, il était aussi fort que maintenant. Sauf qu'il ne le faisait pas jouer.
Ah ouais ?
Il avait besoin de jouer ce garçon.
Il y avait deux bras à l'époque à Chelsea aussi.
Ouais.
Il y avait les deux.
Donc il était victime d'une hougala.
Hougala algérienne.
Il s'appelle Mohamed.
Ouais, ouais. Bah oui.
Mais c'était qui l'entraîneur à l'époque? Ouais, c'était pas Mourinho?
Sûrement.
À Chelsea, ouais, je pense. Ouais. Et ouais, il y avait du Mourinho là-dedans.
Ouais.
Mourinho n'aime pas les techniciens. Il aime plus ce qui est dur. Parce que ouais. Bah, Mourinho, c'est du béton. Hein.
Je comprends.
Ouais. Ouais, bah oui, je comprends par rapport à ce que tu vois ce soir.
Après, tu veux quoi? Tu veux gagner ou tu veux jouer? Si tu veux jouer, bah, tu fais comme Guardiola. Tu prends les meilleurs joueurs du monde, et tu les mets sur le terrain et tu joues avec. Si t'as pas ces meilleurs joueurs du monde, et bah, tu fais avec. Hein. Et comme tous les autres sont tous pareils après, t'as les meilleurs du monde et t'as les mecs qui sont pareils. Et les mecs qui sont pareils, bah avec eux, tu peux faire des choses sympas. Très sympas.
Bon, alors, il paraît que... Ça, on va, c'est un autre sujet, puisque ça nous mène droit jusqu'à 19h. Il y a eu... cette semaine, j'ai vu plusieurs polémiques. D'abord, sur la fameuse pelouse du stade Chaker. Ouais. Tout le monde sait que la responsabilité a été confiée à la fédération, qui voulait nommer un expert portugais, en disant que l'entreprise qui était chargée de gérer la plantation du gazon est très bien avancée dans son travail, que la pelouse sera prête. Alors pourquoi toute cette polémique? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu notre ami Nazim via les réseaux sur tous ces problèmes. J'avoue que j'ai du mal encore à saisir ce qui se passe. À l'intérieur même du bureau fédéral. Il se passe des choses qui me paraissent anormales. On n'est pas encore... je sais pas, il y a trop de mystères. Belmadi, il est dans son domaine purement sportif, mais est-ce que à ce rythme-là, on risque pas d'avoir un souci, parce que déjà, on est en train de préparer ce fameux match contre le Burkina. Et entre-temps, il y a deux problèmes. On a le problème avec l'équipe de Djibouti. C'est une histoire de gouvernement-fédération. Le gouvernement acte à que le match se joue en Égypte, mais les Djiboutiens disent non. Enfin, la fédération, elle dit non, on reste au Maroc. Bon, il y a une chose. Après, ce que tu avais dit, Nasser... grâce notamment aux règles édictées par la FIFA, etc., des instances internationales du football. La preuve, la JSK s'est déplacée au Maroc, elle a joué son match contre les Phares, et le match retour se joue ce soir à Tizi Ouzou. Une petite précision, c'est que les joueurs des Phares de Rabat ne sont pas arrivés directement du Maroc, mais ils sont passés en transit par la Tunisie. Alors ça, c'est juste une précision. Ça veut dire que la JSK a dû faire à peu près la même chose au match aller. En fait, que ce soit un avion de la Royal Air Maroc ou un avion d'Air Algérie, ni l'un ni l'autre ne peuvent rentrer dans
l'espace aérien.
Dans l'espace aérien. Ça veut dire que soit c'est un avion qui a conduit à Tunis, ensuite de Tunis, c'est un avion tunisien peut-être qui les a ramenés vers l'Algérie. Je n'ai pas encore tous ces infos. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a bien vu l'accueil des footballeurs marocains, des Phares, d'abord à l'aéroport d'Alger. Ensuite, donc ils sont allés directement à Tizi Ouzou, le plus normalement du monde, avec, comme je te l'ai dit, là, ce match qui se joue à 20h. Ouais. Est-ce pour cela aussi que, justement, c'est la fédération djiboutienne maintient le match à Marrakech?
Tu sais, après, c'est les contradictions des nouvelles qu'on reçoit. C'est-à-dire que t'as plusieurs.
Aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, ouais. Nous ne savons pas où le match va se jouer.
Ouais. Ouais. On entretient le suspense.
Ouais.
Et le suspense, c'est de dire, ils vont créer la polémique. Les joueurs qui vont vouloir aller en Égypte, d'autres dirigeants vont vouloir aller au Maroc. Mais je pense que le Maroc va, c'est aussi la voie. C'est la voie de, parce que les Égyptiens aussi ils ont dû demander. Mais il y a un meilleur accueil au Maroc. C'est plus sympa là-bas.
D'accord.
Ben oui, normal.
Ouais. L'autre avant. Ah oui, parce qu'en plus de
il
ça.
Il y a quoi, une délégation de 60, 80
Oui, alors.
T'as 20, t'as 16 joueurs.
Oui. Alors, il y a aussi. Peut-être que psychologiquement, la sœur, il y a un facteur qui peut intervenir.
Ouais.
Je vais te le poser, tu vas me répondre. En allant jouer en Égypte, donc courant novembre, on serait à quelques jours de ce fameux match Algérie-Égypte au Soudan.
Très bonne question.
T'as vu ?
T'as 4 jours ouais. entre les deux.
Ouais.
Comment Jamel va gérer ça ?
Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce paramètre pour dire que finalement, si la fédération djiboutienne demande à la CAF et à la FIFA de jouer au Maroc, la FIFA et la CAF vont accepter ?
Bah oui.
La preuve, je dis, il y a eu le match phare-JSK.
Bien sûr. Oui, il y a eu, non mais moi je regardais autre chose, je regardais l'aspect des joueurs algériens qui vont jouer 2 matchs en 4 jours et faut pas te louper parce qu'il faut que tu saches que.
Et d'ailleurs,
c'est la fraîcheur.
C'est
la fraîcheur physique qui va faire la différence, toujours. Tu pourras pas mettre Mahrez à Djibouti. Pour moi, ça serait du harakiri. La prise de risque énorme.
Ouais.
Après, Mahrez, c'est un garçon qui aime jouer. Il veut jouer.
Ben voilà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure.
C'est ça.
Même entre copains de quartier, il est capable de sortir.
Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que oui, tu poses un vrai dilemme. Après, ce serait jamais de le résoudre. Hein. Moi, je sais qu'il faut pas qu'il joue. C'est clair qu'il faut pas qu'il joue du tout. Même être sur le banc, c'est encore pire. Mais il faut que tu alignes une équipe qui va être assez costaud pour gagner le match tranquillement et sans qu'il y ait d'éclat. Parce que 4 jours après, tu joues la première finale. Parce qu'il y en a deux.
Sachant que normalement, puisque les autorités sanitaires ont donné leur feu vert pour la présence du public à chacun pour ce match contre le Burkina.
Ça, tu t'imagines même pas le poids que ça joue. Le fait qu'il y ait du public va complètement libérer l'équipe d'Algérie. Si c'était à huis clos, moi j'aurais craint beaucoup de choses, franchement.
Même avec une jauge à 5000 personnes, ouais. 5000 Algériens, c'est
600 000. Et il faudra que tu mets compte 5000, s'ils ne sont pas 10 000, tu vas voir.
Oui.
Voilà.
Et je veux dire, peut-être que, d'après ce que je lis de notre ami Mohamed Djadi, on aurait accepté 17 000 personnes à Blida.
Ah. Oui, la moitié du stade.
Ouais. 17 000, ça veut dire que tu peux faire un bruit comme ça, mais
c'est clair.
Pas mieux, mais tu peux rentrer à 25 000. Hein.
Oui.
Ah, bah oui. Nous, on est fin, on est maigre, on se sert plus.
D'où le terme Fennec.
Voilà.
Le rusé.
C'est ça. Mm-hmm. Ça va être ça.
Ouais. C'est vrai que la présence du public, ça change beaucoup de choses.
Bien sûr, c'est important.
Ça change tout. L'Algérie, à Blida, est invaincue. Mais c'est vrai que c'était ces derniers temps, avec la crise, la pandémie, tu as beaucoup de ce genre de statistiques là qui intéressent un peu ceux qui s'y initient, qui ont sauté à cause du huis clos. Tu sais, par exemple, Barcelone en Ligue des Champions n'avait pas perdu un match au Camp Nou depuis X années. Et il s'avère que le PSG est venu à gagner 4-1. Mais je pense qu'avec le public, même un Barça boiteux ne perd pas sur ce score-là. Tu as la Centrafrique qui part gagner au Nigeria, le Nigeria qui ne perdait jamais à Uyo. Ouais. Et pareil, encore une fois, un match avec huis clos, qu'est-ce que ça veut dire ? Et typiquement, la finale de la Copa América. L'Argentine qui va battre le Brésil au Maracana, moi je. On va pas faire de football fiction, mais je pense qu'avec du public, ça en aurait été tout autre. Et là, effectivement, l'Algérie avec son public à Blida et potentiellement avec une avance en plus au goal average qui sera importante avec le Burkina qui devra, parce que ce sera au Burkina de gagner, c'est probablement ce match, ouais. Ça change tout. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, le sélectionneur du Burkina Faso qui était un petit peu tendu. Donc ça veut dire que déjà.
Oui, écoute, là, on va dire que la guerre psychologique est déjà entamée.
Oui.
À savoir, bon, maintenant, aussi pour les Burkinabés, il leur reste aussi déjà à battre le Niger. Bon, même s'ils ont pris 6-1 et 4-0 contre l'Algérie, bon, déjà le Burkina avait battu 2-0 le Niger là, une première fois. Ça veut dire que dans leur esprit, ce match est gagné d'avance. Après, c'est vrai que la finale, Algérie, d'ailleurs avec Sofiane, avant que le coach arrive la dernière fois, on avait parlé de toutes ces finales de la dernière journée en Afrique, qui sont tout simplement subliminales.
Mais ce que vous avez oublié d'omettre, c'est de parler du match nul. C'est celui-là qui va déterminer réellement c'est qui le favori. Si en cas de match nul.
En cas d'égalité.
Oui, en cas de match nul lors du match.
Oui.
C'est qui va passer, qui est-ce qui va être qualifié pour cette fameuse
finale. Est-ce qu'on parle du goal average général ou pas ?
Oui, les deux. Bah, t'as les deux qui sont.
Non, c'est général.
C'est général.
Eh ben, faut.
On l'a dit la dernière fois, là, c'est.
Non.
L'art,
toujours qu'on l'a dit.
Non. Si, si. Bah, je l'ai. J'ai écouté.
Sofiane a parlé du goal average.
Ouais. Mais elle a pas tout dit.
Non.
Chaque équipe, il y avait. C'est qui ? C'est quoi ? Vas-y, annonce-moi les équipes.
Bah déjà, t'as Algérie, Burkina.
Bon, on parle pas de celui-là.
Ok. Il y a les cartons rouges pour Pogba, tiens.
T'avais pas Nigeria.
T'as Nigeria.
Cap-Vert.
Nigeria, Cap-Vert.
C'est qui, ouais. C'est qui? Le nul pour qui?
Le nul pour qui? Ah là, tu me trouves dépourvu là.
Bah non, mais je te dis, voilà.
Non, je sais.
Je crois qu'il y a Côte d'Ivoire. C'est quoi le troisième?
Il y a aussi Cameroun-Côte d'Ivoire. Ouais.
Voilà. Mais en fait.
Là, je sais que c'est Cameroun. S'il fait nul, c'est Côte d'Ivoire qui passe.
Oui, parce que la Côte d'Ivoire a gagné le match. Voilà. Et il y a, je crois, Ghana, Afrique du Sud, il me semble.
Exactement.
Voilà. Et en cas de match nul, c'est qui passe?
Je ne me rappelle plus.
Et vous savez qu'en Afrique, match nul?
Non, match nul, c'est l'Afrique du Sud, parce que ça avait gagné à l'aller.
Ouais. En fait, il me semble, faudrait voir, mais je suis quasi sûr, parce que je l'ai vu sur le site de la FIFA, que c'est la différence générale qui prime. Tu sais, parce qu'en plus de ça, en Europe, on a supprimé la règle du but à l'extérieur.
C'est ça.
Elle a été supprimée.
Oui.
Donc maintenant, ça marche encore.
Non, ça marche plus, ça y est. Ça marchera peut-être. D'ailleurs, ça, c'est une vraie question. Ouais. Est-ce que pour les barrages, le but à l'extérieur compte ou pas? Ça, c'est une vraie question. Mais du coup, c'est le goal average général, et en cas d'égalité sur le goal average général, c'est la meilleure attaque. Mmh. Derrière, c'est tout de suite la meilleure attaque. Et j'avais remarqué dans ces éliminatoires que l'Algérie a marqué, je crois, quelque chose comme 19 buts, un grand nombre de buts. Et c'est pas le cas des autres sélections africaines qui, en règle générale, c'est très serré partout. Hein.
Ouais, 19, tu fais 8 Djibouti, 6 avec le Niger, ça fait 14, c'est ça?
C'est ça, t'as 4 Niger. 4 contre le Niger.
Oui, 4
au retour.
Ouais. Plus 19.
Plus le 1 contre le Burkina, ça fait 19.
Ouais, t'enlèves 2 buts. Parce que
ouais, donc ça fait 17. Plus 17 au goal average. Ouais.
Et on a 13 buts d'avance sur le. Il me semble quelque chose comme ça sur le.
Ouais.
Où on en prête 13.
Ouais, il y a 13 buts d'écart à peu près, au niveau du goal average.
Ouais. On est largement. Non, mais ce que je voulais surtout faire remarquer, au-delà de ça, c'est faire remarquer l'importance d'un match nul dans des pré-finales comme ça. Ceux qui jouent à domicile, etc., ça joue sur quoi? Si l'Algérie imagine que le match là, t'es obligé de le gagner. T'es obligé de le gagner. Le nul suffit au Burkina. Oh
non.
Parce que quand tu mènes 1-0, faut qu'il en mette 2 l'autre. Hein. Ouais, passer 1.
Oui.
Le nul ne suffira pas. Hein.
Oui. C'est pour ça que là, c'est bien la différence générale qui fait.
Ouais, ouais. Voilà. Non, mais c'est très important que les gens sachent.
En fait, c'est au Burkina de faire le jeu.
Bah voilà.
C'est à eux de gagner le match.
Voilà. Il faut qu'ils viennent te taper.
Ouais.
C'est pas la même chose.
Ouais.
Comme nous a remarqué notre ami Sofiane, on n'a pas trouvé encore la personne qui a, ou sûrement peut-être le livre existe, ou les livres existent, sur l'influence du public sur les joueurs, dans les matchs. Moi, j'avais lu un article de l'ancien latéral droit du Bayern, quand ils ont construit le stade, l'aréna au Bayern. Comment il s'appelle le français, latéral droit?
Valérie Ismaël?
Non, le latéral droit.
Non.
Sagnol en parle,
ouais.
Il dit deux choses. Il me dit, quand vous rentrez dans le stade, quand vous êtes dans le match, vous volez. Il dit, quand je joue, j'ai l'impression de voler.
Ah oui.
Ah ouais, avec le public. Parce que tout a été. Il faut bien comprendre que ces stades-là, comme à la Juve, comme Bayern, c'est des stades qui ont été conçus. Mais sur le son, la sonorité, sur les calculs des vents, hein, qu'il peut y avoir. Il disait, bref, il expliquait plein de choses là-dessus. Ouais. Il disait que vous êtes, quand vous avez l'ambiance du public, je dis, vous survolez le match. Vous volez sur le terrain. Quand tu entends ça, tu te dis, ouais, bah, comme il spécifiait à notre ami tout à l'heure, c'est que tu as vu, le Barça, il prend 4-1 quand il joue pas chez lui, l'Algérie, elle joue poussivement, et quand tu connais Blida, comme on l'a vu avec le match, en sachant que les mecs vont être en danger, tu vas voir que ça va créer du buzz dessus, hein, et ça influence l'arbitrage.
Bien sûr.
Et ça influence l'arbitrage. Beaucoup, humainement,
hein, oui.
Sans préconçu, c'est pas que le mec il pense qu'il va voler lui ou l'autre, mais le public, la poussée du public, joue. Sur une faute, pour un carton rouge, jaune, sur une faute direct. T'as l'influence du public qui est déterminante. J'ai dit, il faudrait trouver la personne qui.
Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs.
Ah ben c'est celui-là. Ouais. C'est tout l'inconscient. Le conscient, c'est autre chose. Mmh. Mais l'inconscient, c'est celui-là qui nous intéresse.
Très bien, messieurs. Ben, fin de cette première partie d'émission, dans un instant, la reprise, on va parler de commémoration, de solidarité. Et c'est important aussi de rendre hommage à toutes ces victimes du 17 octobre 61. Parce que les sportifs figurent aussi parmi ces victimes.
18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Ravi de vous retrouver pour cette deuxième heure. Un studio bien rempli par nos invités EES, je précise. Hein, quand on est bon en grammaire française, il faut le dire aussi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait parler de ce trekking gazelle à partir de 19h15. Dans un premier temps, et comme vous le savez, il y a des moments où la mémoire doit être préservée, doit être protégée. Et le meilleur moyen, c'est d'organiser, comme le font maintenant les Algériens de France, annuellement, cette rencontre avec des anciens joueurs, histoire de retrouver ceux qui ont marqué l'histoire du football ou d'autres sports aussi ici en France, avec les clubs, notamment pour certains d'Île-de-France, mais également des hommes qui, eux, ont connu les événements. Ils ont réussi aussi à filmer ce genre d'opération et qui continuent à œuvrer aussi pour la conservation et la préservation de la mémoire. C'est notre ami Jemaï que je salue. Monsieur Jemaï, bonsoir, bienvenue sur Beurre FM.
Bonsoir Mohand, bonsoir coach et à vos invités et aux éditeurs de Beurre FM.
Bon, alors, Monsieur Jemaï, je vais aller droit au but. 17 octobre 2021, 60e anniversaire. Quel triste anniversaire de ce massacre des Algériens qu'on a jeté par-dessus bord de la Seine. Et pour ne pas oublier ce moment, il y a la commémoration, c'est-à-dire la plus belle qui est peut-être faite, c'est celle des sportifs, ceux qui ont aussi œuvré à développer le football, le sport en général, ici en France.
Tout à fait. Ben écoute, étant donné que bon, moi je suis né dans les bidonvilles de Nanterre.
Oui. Ouais.
Donc j'ai grandi, j'ai vécu jusqu'à, je vis toujours à Nanterre. Donc pour la commémoration, c'est très important parce que je suis issu d'une famille où les parents ont participé à cette manifestation du 17 octobre 61, qui était au début pacifique et elle a fini dans un bain de sang et ma mère elle a reçu une balle à sa main droite.
D'accord.
Donc Voilà. Donc, c'est ce qui m'a poussé à militer au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif du 17 octobre 61 Nanterre. Ça fait plus de 25 ans maintenant. On a donc une plaque commémoratrice qui s'est inscrite dans l'agenda du maire, qui est officiel tous les ans. On a un grand boulevard du 17 octobre 61 à Nanterre. On vient d'inaugurer une place Audin, Maurice Audin à Nanterre. Et on a un collège, Abdelmalek Sayad, un sociologue algérien qui a vécu aussi du côté de Nanterre.
Monsieur Jemaï, il y a une grande histoire avec la ville de Nanterre.
Tout à fait.
Et la communauté algérienne, je pense.
Il y a une forte immigration à Nanterre, il y a beaucoup de bidonvilles à Nanterre. C'est là où il y a eu, je crois, le plus de bidonvilles, le plus de gens venus d'Algérie qui étaient concentrés à Nanterre. Pour ça, dans la périphérie.
Ouais. Et du coup, bon, pour ne pas oublier, pour aussi honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés, mais de ceux qui ont gardé des séquelles de cette époque, eh bien, le mouvement sportif a pris acte également d'organiser annuellement ce genre de rencontres. Qu'est-ce que vous avez ressenti, par exemple, hier, au moment où vous vous êtes retrouvé sur ce terrain avec toutes ces anciennes gloires, pardon?
D'abord, on a eu une semaine riche en festivités, aussi bien théâtrales, cinématographiques, artistiques et culturelles. Et ensuite, on a ce fameux gala qu'on a organisé, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans,
oui,
qui est rentré dans la tradition en Nanterre. Mais hier, c'était quand même assez spécial. Comme c'est le 60e anniversaire, on a été victime de notre succès. On a eu plus de 400, voire 500 personnes au stade.
Ah, quand même.
Tout le monde se demandait ce qui se passait.
Oui, vas-y Noël, oui.
Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Alors moi j'étais présente hier à l'événement et j'ai été surprise parce que j'ai l'habitude de venir à cet événement pratiquement tous les ans. Bon, en raison de la pandémie, il avait été mis en parenthèse.
Pendant deux ans, oui.
Voilà. Et franchement, j'ai été très très surprise parce que habituellement, bon, on a les habitués qui sont là, la famille du football et la famille de Nanterre. Et hier, il y avait pas mal de petits nouveaux et j'ai été surprise.
Pardon, vas-y, je t'en prie.
Oui, et pas mal de nouveaux, mais beaucoup d'artistes qui étaient présentes. Qui étaient présents. En l'occurrence, on avait aussi.
Alors, tu veux parler de qui? De M. Nordine Gafaiti?
Oui, Nordine Gafaïti.
On le connaît à Beurre FM.
Voilà.
Ah oui.
On a eu. Il y avait pas mal de monde et moi j'ai été surprise parce qu'habituellement les tribunes sont pas tellement pleines, pardon. Ouais. Mais cette fois-ci, c'était plein à craquer et c'était magique. Et Ahmed tout à l'heure me disait qu'il a reçu un appel très spécial. Tu peux nous dire de qui?
De Khaled qui m'a appelé pour nous soutenir dans notre. Dans notre action, voilà. Quand même, Khaled, il devait venir, il m'a dit je devais venir, mais comme il est du Luxembourg voir sa mère, il est arrivé à 18h, donc il ne pouvait pas être là à l'heure.
Voilà.
Mais il nous a appelé, et puis son soutien a été perçu comme quelque chose d'exceptionnel en plus. Ouais. C'est le gâteau sur la cerise. C'est le cerise sur le gâteau.
La cerise sur le couscous. Voilà. Parce qu'on a terminé par un couscous hier.
Bien sûr, oui, hein, n'est-ce pas le.
Okay. En plus, donc, on a eu hier dans la programmation, il y a contre les anciens d'Algérie. Je remercie d'ailleurs Didura et puis tous les anciens internationaux algériens.
Oui.
Le Restart qui a bien voulu jouer le jeu avec un Steve Marley où beaucoup de gens sont venus demander des autographes à la fin. Donc,
c'est sympa.
Et le, voilà, donc il y a Steve Marley. Puis on a eu l'équipe de Couronne. C'est une équipe qui est composée essentiellement de joueurs algériens et beaucoup de joueurs, anciens joueurs de la GSK.
D'accord.
Voilà, donc.
D'ailleurs.
C'est de retrouvailles pour certains.
D'ailleurs, je fais un petit coucou à Mourad Naïd qui nous écoute et qui fait partie du Red Star qui était là. Et toutes les personnes se reconnaîtront. Hein.
Et ça nous a aussi permis d'honorer certains joueurs comme Daleb, Nordine et Diadawi.
Oui, oui.
Ils ont fait partie de l'immigration, qui ont marqué l'immigration, donc c'était très important pour nous. Il y avait d'autres réalisateurs et écrivains comme Midi Charef.
Oui, Ben Aïcha, quand même, oui.
Et Ben Aïcha.
Ouais.
Et un artiste qui s'appelle Bote Basri qui a fait vibrer nos.
Mais il est connu, Bote Basri. Eh bien oui.
Voilà.
Tu dis ça à quelqu'un qui maîtrise la musique du Maghreb dans sa diversité. Hein. Boutaïb Basrel, ben oui, c'est pour ceux qui ne le savent pas, il faut allez-y écouter deux ou trois chansons sur l'immigration, vous allez comprendre l'impact qu'avait ce garçon sur l'immigration de l'époque.
Et n'oublions pas Cheba Fadela qui était présente aussi, toujours présente à Nanterre.
Ah ben oui, Nanterre s'est retrouvé, on a l'impression que le post-Covid a libéré tout le monde là. Tout le monde voulait respirer autre chose que le Covid.
D'après la police, hier, on a eu, je crois, un peu plus de 400 personnes. C'était la première fois que ça arrivait à Nanterre, comme ça, dans les gradins.
Ouais.
Et on est parti sur un couscous sur 100 personnes avec les équipes. On se retrouvait à 200.
Et voilà. Il était très bon.
Il a fallu couper les parents en deux.
Mais c'est pas évident.
J'ai une question, je te le dire.
Oui, vas-y, Nasser.
C'est quoi le chiffre officiel aujourd'hui du 17 octobre? C'est quoi officiellement là?
Le nombre de décès, de disparus?
Oui, le chiffre officiel.
De personnes jetées à la Seine?
On ne sait pas trop ce travail des historiens. Ce problème, c'est que ça a été récupéré par le politique. Et puis on en a des petits chiffres qui nous, on n'est pas d'accord.
D'accord.
C'est comme la reconnaissance, là, Macron, la dernière fois, il a remis ça sur Maurice Papon, comme si c'était un écran libre. Maurice Papon, il était régi par un gouvernement de Debré, et puis il avait un chef d'État à l'époque, ça fut De Gaulle.
Bien sûr.
Donc c'est un peu trop facile, je pense que ce sinistre préfet, il doit se retourner dans sa tombe, maintenant s'il savait qu'on avait tout mis sur son dos, parce que tout ça, on ne veut pas reconnaître, c'est un crime d'État.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça m'intéressait, c'est le chiffre qui m'intéresse, parce que bon, on a tellement de versions.
Mais Jemaï, toi qui es dans le monde de l'audiovisuel, puisque tu es quand même réalisateur.
Non, c'est mon
frère. Hein, pardon ?
C'est mon frère qui est dans le monde de l'audiovisuel.
Voilà, ouais, mais en tout cas, lui, il a réalisé pas mal de documentaires. Et ce que je voulais te dire par là, c'est que les Anglais ont fait leur propre travail d'investigation, et c'est eux qui ont sorti ce chiffre de plusieurs dizaines de personnes d'Algériens, on va dire, lestés avec une pierre et jetés dans la Seine. Hein.
Ben justement, moi, je retiens.
C'est les Anglais qui ont sorti ce chiffre. Hein.
Ouais. Mon père de son vivant, il nous a raconté 20 ans après une histoire.
Oui.
Quand ils étaient interpellés par la police, on demandait aux manifestants ceux qui ne savaient pas nager.
Certains ont
enlevé le doigt pour dire non, on ne sait pas nager pour être épargné. Par contre, c'est les premiers qu'on a jetés à la Seine.
Tout à fait.
C'est ce qui m'a vraiment choqué, c'est ce qui m'a poussé à militer, tu vois.
C'est exactement ça.
Et pour les autres, leur casser les jambes, moi, c'est ce que j'avais.
Il y a eu beaucoup d'exactions, puis.
Sans oublier les tirs à balles réelles, hein, soyons clairs.
Réel, hein.
Ça veut dire quoi? C'est des centaines de milliers? C'est des milliers, on peut parler?
Les chiffres, ils sont sortis en nombre, de toute façon, ce jour-là.
Non, parce qu'officiellement, il y a trois morts. Hein,
pour oui, c'est ça. Ouais.
Non, mais le chiffre officiel, c'est ça.
Oui, trois.
Ouais, ben c'est trois morts. Ouais. Ah, et le problème,
c'est pour ça qu'on demande que ce travail-là
c'est exactement ça.
Soit effectué par des historiens et pas par des politiques.
Voilà. Ah, oui. Bah, les historiens aussi ont droit à ce qu'on leur ouvre les archives. Si les archives ne sont pas ouvertes, je ne comprends pas que 60 ans après, il y a encore des déblocages sur cet événement.
Tout à fait. Et on demande même qu'elles soient enseignées dans les établissements scolaires.
Oui.
C'est important parce que moi, quand je parle du 17 octobre 61, j'en parle comme histoire de France.
Oui.
Voilà, je suis né en France, je suis français, c'est l'histoire de France, certes, c'est une page noire de l'histoire de France, mais ça reste avant tout l'histoire de France, pas seulement de la communauté algérienne.
Oui.
Il faut l'assumer.
D'accord. Et aujourd'hui, concrètement, Ahmed Jemaï, entre nous, qu'est-ce que vous projetez à l'avenir? Est-ce que vous voulez que la reconnaissance franchisse un pas face à une société qui se radicalise de plus en plus vers la droite extrême? Comment vous voyez le futur de cette date majeure pour la communauté algérienne de France, c'est-à-dire celle du 17 octobre 61?
Moi, je ne te cache pas, on a l'intention de monter un collectif national.
Oui.
Et on fait appel à des juristes et à des avocats. Et on a l'intention d'aller beaucoup plus loin, même s'il faut aller auprès de la Cour européenne ou des Nations unies. Mmh. On ira, parce que là, on ne peut pas laisser ça comme ça.
Voilà, merci.
Mmh. Moi, ça fait 60 ans, j'aurais bien voulu rentrer un soir, dire à ma mère, qui est maintenant 90 ans, ça y est, le crime a été reconnu, et puis qu'on puisse faire le deuil une fois pour toutes, et puis on passe à autre chose.
Mais tu te rends compte de ce que tu me dis là, Ahmed de Jemaï, tout de suite? C'est-à-dire que 60 ans après, on va dire, la plaie n'est pas refermée.
Il n'est pas refermé, mais personne ne va assumer sa responsabilité. Les chefs d'État, avant les élections, ils font des promesses. Une fois qu'ils sont dans le gouvernement, eh ben, ils n'en parlent plus. Macron, il a fait des déclarations qu'il n'a pas assumées. Je dirais même, plus loin, il a provoqué des polémiques pour fuir ses responsabilités.
Oui, donc aujourd'hui, on va dire qu'on reconnaît du bout des lèvres, genre crime non excusable, etc. et tout, mais on ne veut pas franchir le pas pour aller vers le crime d'État, c'est ça.
Et nous, on ne demande pas des compensations pécuniaires, loin de là, on veut juste une reconnaissance morale. Et c'est une histoire de France avant tout, pour qu'elle soit enseignée dans les établissements scolaires, c'est important.
Ouais.
Et puis je crois qu'avec le monde qu'on a eu hier, parce que dans les tribunes, il n'y avait pas que des fouteux, il y avait des militants, il y avait des parents, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, il y avait. Donc, j'ai l'impression que les Algériens, enfin, les Français d'origine algérienne aussi, ils ont besoin de savoir la vérité sur cette histoire.
Mmh. Très bien. Un dernier, peut-être avant de se quitter, Ahmed, par rapport donc à ce moment intense que vous avez vécu hier avec ce nombre public qui est venu, ces anciennes Gueloirs qui sont venus, l'apport également des joueurs du Red Star, sans oublier. Le combat futur, hein. Voilà.
Le combat futur continue, puis je viens quand même profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les joueurs du Red Star, avec à leur tête Steve Marley, et puis remercier Nasser Guitoura et tous les anciens internationaux algériens qui, chaque année, viennent, et puis là, cette année, ça, vraiment, il y a eu un engouement.
Ouais.
Et n'oublions pas Mustapha Daleb qui était présent.
Il y a eu Mustapha Daleb, Nordine Korouchi, Jadawi. On les a honorés hier avec un trophée du 17 octobre, le 60e anniversaire du 17 octobre 61.
En fait, tous ces joueurs, ce sont des joueurs issus de l'immigration. Hein. C'est vraiment des enfants d'ici. Hein.
Bah, Daleb, c'était, je crois, le premier immigré qui jouait à l'équipe nationale. Ouais. Korouchi, c'était le premier binational qui a été joué en équipe d'Algérie. Et puis Jadawi avec Sochaux, c'était vraiment l'immigré.
Voilà. Jadawi, je me rappelle de lui, de son premier match quand il est venu en Algérie, je crois que c'était à Oran, où il y avait le match Algérie-Botafogo, il avait joué en numéro 6. Ouais, j'ai dû avoir dans les 8 ans à peu près, j'ai un vague souvenir comme ça. Mais, voilà.
Et ils étaient ravis hier, franchement, ils étaient ravis. C'était une récompense symbolique, mais c'était très important parce que vu le monde, vu l'ampleur que ça a pris, ça les a touchés. Nous, ça nous a touchés aussi. Donc. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Ahmed Jemaï, d'être intervenu dans cette émission Foot Sport. Et puis, bon, maintenant. Bien sûr, on vous suivra jusqu'au bout. Bien sûr, on vous suivra jusqu'au bout parce que, comme on dit, le combat continue.
Je te remercie.
Merci.
Allez, bonne soirée.
Merci. À bientôt sur Antenne de BFM dans un instant, le Trekking Gazelle avec nos invités jusqu'à 20h.
Food Sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Food Sport sur Beurre FM. Les dossiers de Food Sport.
Les dossiers de Food Sport jusqu'à 20h. Comme je vous l'ai dit dans cette émission depuis tout à l'heure, le tout premier trekking, trekking gazelle, avec des invités qui étaient déjà présents il y a, comme le temps passe vite, il y a 4 ans, parce que le Covid nous a détruits, il nous a empêchés de revoir nos amis, de prendre de leurs nouvelles. Et aujourd'hui, on va dire, on se libère, on se lâche, grâce notamment à la vaccination et au pass sanitaire, pour permettre à des personnes d'assouvir leur passion. Je sais que si je vous en parle tout de suite, c'est parce que elles ont accepté avec le plus grand plaisir d'être ici sur le plateau. Soit je vais les saluer. Oh, là-bas, au bout à gauche, Latifa. Bonsoir, Latifa.
Bonsoir.
Ça va ?
Ça va, Mohamed, et toi, merci.
Ouais, alhamdoulilah, tu te retrouves.
Et bonsoir à tous, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas tout seul ici.
Ensuite, il y a Ilham. Bah, approche-toi de ton micro, évidemment.
Oui, bien sûr.
Bah, oui, comme ça, je préfère.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir pour une deuxième fois, pour une nouvelle aventure.
Et aujourd'hui, vous êtes accompagné de
Ilham.
Voilà, approche-toi du micro, Ilham. Bah, de toute façon,
je ne participe pas. Bonjour.
Merci. Alors, elle commence déjà à s'éclater avant de commencer l'émission. Ça promet une émission classe. Rassurez-vous. Ben vous me connaissez, vous savez comment j'agis quand je suis derrière un micro. On va commencer par définir cet événement, parce qu'à l'époque, il y avait, je crois que c'était le rallye d'un petit peu des gazelles, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
Et que vous avez transformé en très gazelle.
Qui a gagné, déjà, pour savoir?
C'était nous les gagnantes, bien sûr.
C'est une évidence.
C'est ce que je vais vous dire à la radio, à l'antenne.
La question ne se pose même plus, on a gagné. En fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été stratégique, on avait concouru sous le drapeau, sous la nationalité marocaine.
Ouais.
Et comme on était le seul équipage marocain, effectivement, on est arrivé première.
Non, c'est parce que vous connaissez le pays par cœur.
Aussi,
c'est mais à l'époque, il faut le rappeler, c'est que lorsque vous aviez fait le rallye, vous êtes mis dans la population, en fait. Vous êtes rentré dans la population, vous avez mangé avec la population, vous avez peint des maisons, vous êtes mélangé, alors que c'était pas le cas des autres concurrents.
Alors, en fait, le principe de tout rallye, hein, c'est que les repas des petits déjeuners, des dîners sont pris en groupe. Et pendant la journée, en général, on doit se débrouiller pour déjeuner. Et c'est vrai que nos concurrentes, la veille faisaient leur provision auprès des petits commerçants, etc., pour le lendemain midi. Et nous, en fait, on s'arrêtait à la porte de ce qu'on appelle un douar, un petit village. Et on leur disait, voilà, on a faim. Et... Non, mais c'était une fête quotidienne, fallait voir. Parce que c'est des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui vous offrent tout. Et ça, c'est une expérience humaine inégalable, je pense.
Ouais.
C'est ce qui nous reste.
Ilham.
Oui, c'était juste inoubliable, parce que c'est vrai qu'on allait... leur demander de manger, non, ils nous invitaient un peu spontanément aussi, et ils nous accueillaient franchement les bras grands ouverts, et on mangeait avec eux, et c'était juste un partage, mais juste magnifique et inoubliable. Et c'est des gens, effectivement, qui, pour nous, qu'ils ont peu, mais ils ont, pour eux, ils vivent,
ils ont le
bien,
cœur.
Voilà. Et du coup, c'était juste magique, quoi.
Et moi, c'est là que je déduis une chose, mon cher Lasser, j'ai compris.
Dis-moi.
Ça veut dire qu'en allant manger chez la population, elles peuvent se permettre de jeûner, puisque les autres, ils font des provisions, ils s'arrêtent pour manger.
C'est
et
ça.
Pendant ce temps-là, elles continuent leur course.
C'est ça.
T'as vu, la déduction, comment elle est.
Ils ont fait la différence.
C'est pas mal.
Oui, j'essaie de comprendre un petit peu le.
Ouais.
Hein,
ceci dit, c'était une superbe aventure.
Ah oui,
sûr. Non, c'est une aventure humaine avant tout, finalement. Au-delà. Parce que, pardon ?
Ça va durer combien de jours ?
Une semaine. C'était 7 jours. Et là, la différence, là, c'est 4 jours.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement entre ce rallye et ce nouveau trekking gazelle ? C'est quoi la différence?
Donc là, c'est carrément différent. On part sur une nouvelle aventure. Le rallye, c'était avec un rallye avec une voiture.
Oui.
Là, on fait un trekking. Donc, ça va être à pied. Ça va être 20 km par jour pendant 4 jours. Donc, voilà, là, c'est vraiment un trek pour le coup.
Donc, même si on a d'autres chameaux,
le concept reste le même. C'est-à-dire que ça reste une course.
Oui.
Pas de temps, mais sur des kilomètres, en fait. Et sans boussole, sans téléphone. Avec boussole, sans téléphone, sans GPS. Yes, pardon.
alors on le rappelle. Sans téléphone.
Sans téléphone, GPS.
Sans GPS.
Sans matériel, voilà, qui soit susceptible de nous guider directement. Donc, on va revenir à l'ancienne, boussole, carte géographique, compas visé. Et la grosse différence, effectivement, en fait, c'est une première édition pour le rallye des gazelles, hein, le trekking gazelle. Ouais. Et donc, c'est à pied pendant 4 jours dans le désert marocain. Dans le désert, oui. On part de Erfoud et on fait une grosse boucle pour revenir à Erfoud pendant 4 jours. Et le principe est le même, c'est-à-dire que...
Ça reste toujours solidaire. On est resté toujours dans le concept solidaire. Et
environnemental. Il y a une touche environnementale en plus cette année puisqu'on participe à l'action Clean Walkers.
Oui, j'ai lu ça justement. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le mot anglais Clean Walkers... Dans le mot walk, il y a la marche.
Clean,
c'est nettoyer. Donc,
on va nettoyer le désert.
Voilà, c'est les nettoyeuses du désert. Voilà. Alors, pour ne pas dire femme de ménage du désert, hein, on est d'accord. Voilà.
C'est ça.
C'est une action environnementale, effectivement. Voilà.
Et surtout, je pense que dans cette action, il y a surtout aussi une sensibilisation auprès de la population. C'est vrai qu'on sait qu'au Maroc, il y a ce qu'on appelle MICA, le plastique.
Ah.
Voilà, donc. On va surtout les sensibiliser au fait que ça pollue et qu'il ne faut pas jeter les déchets. Il y a un petit côté sensibilisation aussi qui rentre en compte.
Très écologique.
Très écologique, voilà. C'est aussi une cause qui nous touche et qui fait partie aussi. Parce que nous, avant tout, on était une association, les Aventurières Solidaires. Et ces actions-là, on les mène aussi. On se greffe dans des actions qui nous portent à cœur et qui ont du sens pour nous.
Et comment... concrètement, vous vous êtes préparé à cet événement. Il y a eu cette période de 2 ans, malheureusement, de Covid, ouais. Qui a tout mis entre parenthèses. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu, au moment où vous avez eu cette réflexion, déjà un travail en profondeur, aussi bien auprès des sponsors, des concurrents? Et quelle a été la démarche, votre démarche, pour arriver à convaincre des gens de venir faire du trekking dans le désert pendant 4 jours?
Alors déjà, ça a été complètement différent, par rapport à la première, justement, due à la Covid, c'est-à-dire que des gens ne savaient pas si ça allait aboutir ou pas. Puisqu'avec toutes les fois où les choses ont été reportées...
Première vague, deuxième vague...
Exactement, donc l'investissement n'a pas été le même. De démarcher les sponsors, ça a été beaucoup plus compliqué, parce qu'effectivement, beaucoup de sociétés ont connu des problèmes financiers assez compliqués. Et nous, de notre côté, ça a été pareil. C'est-à-dire que sur la démarche, nous, on a été sur ce qu'on avait fait il y a 4 ans. Sauf qu'effectivement, les refus ont été plus conséquents, plus réguliers. Mais ça ne nous a pas démotivés, pour autant.
C'est bien.
Voilà. Ouais. Donc,
on a eu la chance, je précise, d'avoir un sponsor qui a été touché par l'événement, par l'action, qui est une personne aussi qui est aussi un peu dans le social et tout ce qui est solidaire, et qui nous a suivis. Donc, c'est notre sponsor principal, qui est DAO Infranet.
Qu'on remercie énormément.
Et Detect Infra, qu'on remercie, c'est monsieur Mustapha Benzekroufa, que je tiens vraiment à remercier. C'est
le
seul et unique sponsor, et c'est lui qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire cette aventure qui nous tient à cœur. Sans lui, je pense qu'on n'aurait pas pu la faire.
D'accord.
Voilà.
Ça aurait été beaucoup plus compliqué.
Voilà. Donc, je le remercie. On le remercie.
Et combien aujourd'hui de concurrentes sont inscrites pour ce trekking?
Alors, c'est des 80. Équipages de 3.
D'accord.
Donc, on est des trinômes et il y a 90 équipages.
Alors,
donc, 270 concurrents.
Essentiellement des femmes.
Non, mais ça, je le sais, j'ai compris.
On arrive.
Elle a dit trinôme, ça veut dire que tu va marcher.
Ouais.
Elle a dit trinôme, donc tu peux aller marcher.
Ouais.
Mais Nasser aime bien marcher.
Mais moi, j'ai. Vous rappelez, je ne sais pas si vous le connaissez, Karim Mosta, vous le connaissez? Vous connaissez pas Karim Mostar?
Non.
Je crois que c'est le Marocain le plus le phénoménal qu'on ait jamais connu.
Il a fait je ne sais combien de fois.
Il a fait 250, je crois, marathon.
Oui.
Il a tout fait. La dernière course qu'il a dû faire, que vous avez dû entendre, il a fait Casablanca à la Mecque en vélo.
Ah oui, oui, effectivement. Ah, oui, oui.
En passant par l'Europe. Hein.
Oui, oui,
par,
oui, effectivement, le nom n'assimilait pas le nom.
Il était ici. Il était ici.
Il faut l'associer.
Mais franchement, on a passé un moment de rêve.
Ouais. Bah, j'imagine, il a dû en voir des choses.
Oh, quand il m'a parlé de l'Amazonie, quand il m'a parlé des pays qu'il a traversés, etc.
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Ouais, c'est voilà.
Mais là, je pensais, parce que lui, il faisait les courses, il partait sur 5 jours. Ouais. Il courait la journée, il courait la nuit.
Ouais.
Et je voulais savoir si vous aviez s'il y avait ce profil-là, quoi.
Non, mais en disant un trinôme, ça veut dire comment vont se passer.
C'est ça, l'histoire.
Comment vont se passer ces fameux 20 km par jour? Si jamais une de vous flanche, comment ça se passe?
Ah bah c'est aussi la difficulté, c'est aussi peut-être la difficulté de l'événement.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va être en équipe et puis bien sûr il y aura chacun.
Il va falloir pouvoir se soutenir et se motiver.
Voilà, c'est ça. Donc,
c'est ça. En fait.
C'est là où ça va rentrer en compte et je pense que c'est ce qui va faire aussi. Qui va donner de la puissance à chaque équipe, c'est-à-dire que la cohésion, je pense qu'elle est très importante avant tout, parce que il va falloir être en cohésion. Et si une équipe n'est pas en cohésion, ça peut flancher et ça peut être un échec aussi, dans l'aventure.
Et on est sur un événement qui est dans le dépassement de soi aussi.
C'est ça. Et nous, c'est ce qui nous plaît aussi.
Alors, parce que vous avez dit tout à l'heure, pas de téléphone, pas de GPS, ça veut dire qu'uniquement la boussole. En gros, quand vous allez démarrer sur un itinéraire, vous avez intérêt à ne pas vous planter.
Ah bah ça, on l'a déjà vécu lors de notre rallye.
J'essaie d'imaginer, je vous assure. J'imagine.
Lors de notre rallye, on l'avait déjà vécu, parce que c'est pareil, c'était à la boussole. Et on avait acheté des boussoles ici. Et on n'avait pas pris l'initiative de s'en servir avant. Et arrivé là-bas, on n'a pas réussi à faire fonctionner, en fait.
Là, tu pars. Hein. T'as pas su faire tourner une boussole. Hein.
Non, on n'a pas su faire fonctionner.
Là, on se prépare, on a un stage de navigation. Donc,
On avait voulu passer outre le stage de navigation en se disant c'est bon, mais finalement non. Parce que quand on arrive dans le désert et que devant nous on a une étendue de sable et que derrière une dune il y a une autre dune et
c'est
que
ça.
On a beau dire bon ben quand le soleil est en haut de nos têtes, il est au zénith, quand il est là, il est à l'est, à l'ouest. Mais finalement quand on est baigné dedans, ben, c'est terrible hein, parce que.
En fait, dans le désert, il n'y a pas de route.
Ah non, il n'y a pas de route, non. Ah non, il n'y a pas de route. Faut se la créer là-haut, justement. Et puis les paysages varient très vite, hein. C'est-à-dire qu'avec le vent, parfois une dune qu'on avait vue peut-être une demi-heure avant, elle a disparu.
C'est
magique, ouais. C'est vraiment magique en fait. C'est comme je dis souvent à mes amis qui me disent mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu payes pour aller marcher? Je leur dis je ne paye pas pour aller marcher. C'est le concept en fait. Il faut le vivre pour le comprendre.
Parce que derrière, il y a quand même, mine de rien, Latifa, cet esprit de solidarité toujours qui revient.
Oui, puis il y a l'aventure humaine, comme je vous disais. Parce que nous, quand on s'est perdu dans le désert, on est arrivé chez des nomades qui étaient là-bas et qui nous ont accueillis. Et la dame avait un petit paquet de gaufrettes qu'elle devait garder pour les grandes occasions. Mm-hmm. Et elle nous l'a servi, mais vraiment comme si ici, on aurait servi un méchoui ou quoi que ce soit.
Un paquet de gaufrettes.
Ouais, mais elle était heureuse de nous recevoir. Mais on a rarement vu ça, en fait. Et c'est ce qu'on a envie de revivre finalement.
C'est ce qui nous a expliqué Karim lors de tous ces
périodes,
parce que c'est très, très compliqué.
Ouais.
C'est les rencontres avec les gens et c'est surtout qu'il a rencontré des gens qui n'avaient rien du tout et qui ont tout donné.
Ouais.
Il a rencontré que ça dans tous les pays.
C'est pour ça que je dis ça, parce qu'ici un paquet de gaufrettes c'est anodin pour nous. Limite on en mange une, on la laisse.
Oui.
Mais là-bas elle l'avait caché pour les grandes occasions, etc. Et elle nous l'a sorti, c'est-à-dire des gens qu'elle ne connaît même pas.
Bah oui, c'est ça.
Alors qu'ils étaient.
Il y a surtout aussi, je pense que c'est une aventure où il y a le dépassement de soi.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est la plus belle. Quand vous revenez, vous êtes.
On relativise beaucoup.
Voilà. Vous êtes plus.
Combien de personnes se sont inscrites aujourd'hui à cette aventure
270 participants.
Voilà.
Ah, quand même.
90 fois 3.
Oui, 90 fois 3.
Ouais, voilà. Et puis après, tout le staff autour, etc., on doit être à peu près bien 300-350 sur place.
C'est impressionnant quand même.
Ouais.
Moi, je regarde ça.
Toute la logistique derrière, c'est impressionnant. Ouais.
Oui,
là, cette fois-ci, la fois dernière, vous aviez une voiture. Cette fois-ci, c'est à pied.
La prochaine, c'est natation.
Attention à la bonne paire de baskets. Hein, c'est
mais
pas
vous
la
allez nous revoir. Avec encore plus d'aventures.
Mais quelle est votre méthode de préparation? Parce que c'est assez rude hein, quand même. Hein.
Ben, on est obligé
de répondre. Faire 25 bornes.
Alors, on a notre troisième collègue qui n'est pas là, qui est malade et on la salue, qui est une dame qui est très très sportive, qui nous encourage quotidiennement. Et donc quand on peut, on la suit. Voilà. Quand on y arrive,
c'est une grosse préparation physique.
Bien le terme. Quand on peut et quand on peut.
C'est une grosse préparation physique.
Parce qu'à la base, vous êtes sportive ou pas ?
Oui, tout à fait.
Oui. Non, moi personnellement, je suis pas du tout sportive. Je suis aventurière.
Ouais. Au moins, là, tu peux aller franche.
Ah, moi, je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas sportive. Je suis aventurière. Mais par contre, quand on est aventurier, il y a cette idée de dépassement de soi.
Bien
donc
sûr.
On y arrive.
Oui, oui.
Tout est mental de toute façon.
Ah, dans l'aventure, il y a le mental qui joue.
Ah, mais c'est le mental qui joue principalement.
Tu le forges dans la compétition.
Exactement, on le forge dans la compétition. Bah, c'est comme au foot, hein, je pense.
Ben
que
oui,
c'est comme
oui,
ça.
Oui, oh, mais beaucoup. Mais non, voilà. J'entends bien.
Dans tous les sports, d'ailleurs, je pense que.
C'est
dans
tout. Est-ce que.
Mais le soir, il faut le découvrir, quoi, déjà.
Est-ce que dans cette aventure.
Il faut découvrir ce que c'est que le soir.
C'est vrai.
Est-ce que dans cette aventure, puisque c'est une. Bon, on va dire, c'est la marche à pied, mm-hmm. mais en même temps, il y a aussi. Travail au niveau du cerveau, mm-hmm. parce qu'il faut réfléchir.
Oui.
C'est ça. On n'a pas intérêt
on
à.
On a des calculs
tromper.
À faire.
Il y a, bah, bien sûr, donc. La trigonométrie, c'est ça.
Je ne sais pas si c'est de la trigonométrie ou autre chose, mais en tout cas, il va falloir. Alors, il y a de la géographie.
Oui, non, mais la géographie, c'est certain, oui, par rapport au relief. Mais le calcul de l'itinéraire, mais comme tu me l'as dit, Latifa, bah, une dune après une dune après une dune, il n'y a pas de route, il n'y a rien.
Non, il n'y a rien. Il faut savoir qu'on fait du désert de sable, on fait aussi des règles et des ergues.
D'accord, ah oui.
Voilà. Bon. Donc, il y a différents plateaux qu'on va traverser, qui vont être différents. Donc, dans les paysages, je pense qu'on va en prendre plein la vue, comme on en a pris la fois dernière. Et c'est enfin, moi, personnellement, je pense que Ilham dessus me rejoint et Véronique aussi, on a hâte.
Ah oui.
On a hâte parce que finalement, quand on a fait notre rallye automobile, on roulait et d'un moment à l'autre, le paysage était complètement différent.
Mais comment concrètement vous allez faire puisque vous êtes 90 trinômes, oui. 93, donc 270 personnes. Est-ce que vous allez prendre un départ au même moment pour la première étape ou après chacun va à un moment donné, va changer d'itinéraire. Est-ce qu'on va essayer de sur ah lui.
Ah mais de toute façon, on change tout d'itinéraire parce qu'on a toutes des manières différentes de servir justement de cette boussole. On l'a vu finalement quand on a fait notre rallye, on partait d'un point de départ identique et finalement on allait toutes dans des directions complètement différentes.
Le principe là, ça va être vraiment. En fait, le principe c'est vraiment des balises. Il faut rejoindre c'est par jour. On doit rejoindre. Ils vont nous donner une balise à rejoindre. Il va falloir qu'on trace. Par rapport à notre carte, donc il faut qu'on trace notre parcours et on estime à peu près 20 km par jour. Et en fait, chaque jour, il faut arriver à cette balise en faisant le moins de kilomètres possible. En fait, et c'est les équipes qui feront le moins de kilomètres à la fin qui gagneront cette course.
Chaque kilomètre en plus, ça donne un point en moins, finalement.
D'accord.
Si eux estiment que d'un point. On check plusieurs
point,
balises dans la journée.
Oui, c'est ça.
Voilà, on a plusieurs balises à checker dans la journée. Et s'ils estiment, eux, qu'à vol d'oiseau, parce qu'eux font des calculs à vol d'oiseau, qu'il y a effectivement 20 ou 21 kilomètres et que si nous, à la fin de la journée, on arrive avec 30, 35, c'est moins 15 points.
Ouais.
Donc en fait, c'est un système de moins.
Ouais. Ouais, mais la distance à vol d'oiseau ou quand on l'a fait avec ses pieds, je vous garantis que c'est pas la même.
Ah, mais bien sûr.
C'est la même. Hein. C'est
non, mais voilà.
Il n'y a pas de route. Hein. Il n'y a pas de route, c'est tout droit.
Non, sauf que là, en fait, on vous donne un roadbook avec des points de longitude et de latitude, donc est-ouest, à rejoindre, et à peu près un nombre de kilomètres. Donc après, à nous d'en faire le minimum possible.
Très bien, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, une très courte pause. Et ce sera jusqu'à 20h.
Foot de sport. Revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM.
Dernière partie de cette émission avec Latifa Ilham pour le Trekking Gazelle, je vous le rappelle. Hein, ce n'est pas une course, c'est une course sans chrono. Dans le désert, mais essayez de faire un chrono dans le désert. Ne jouez pas avec le feu, c'est trop risqué. Alors, tiens, Latifa, les équipements.
Alors, les équipements qu'on doit avoir.
Il faut bien
s'équiper. Des bonnes chaussures.
Ah oui.
C'est quoi les bonnes chaussures ?
Alors là, on nous a conseillé des chaussures de randonnée, mais pas trop lourdes, qui maintiennent la cheville. On nous a conseillé également des pantalons légers, style, les pantalons de randonnée qui peuvent se transformer en shorts, des guêtres,
Eux nous distribuent les t-shirts puisqu'ils seront floqués à l'effigie de Mayenga. Crème solaire. Parce que mine de rien, on sera peut-être au mois de novembre, mais il y a encore 30-40 degrés dans le désert. D'ailleurs, récemment, il y a eu le marathon des sables, il y a une quinzaine de jours, et il y en a beaucoup qui ont abandonné parce qu'il y avait plus de 50 degrés.
Il y a même eu un décès.
J'avais pas vu, mais effectivement, il y a eu des abandons. Et puis beaucoup d'eau. Il y aura des points de ravitaillement où on distribuera donc des bouteilles d'eau, mais on nous conseille vivement quand même d'avoir des sacs à dos camel, là, ceux où il y a des poches d'eau, pour pouvoir boire au quotidien.
Alors, au moyen, il va vous falloir combien d'eau pour faire 20 km par jour?
Alors, ça, c'est aléatoire en fonction des personnes, mais je pense que déjà, en temps normal, on devrait boire 1,5 litre. Nous, déjà, quand on a fait le rallye, mine de rien, on était dans l'habitacle de la voiture, mais on buvait énormément. Donc là, je pense,
on va avoir des petits sacs à dos avec la petite.
La pipette, là?
Les sacs à dos camel, en fait, comme les poches de chameau, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Moi, je pense que facilement entre 3 et 5 litres par jour.
Ouais.
Mais tout est organisé pour ne pas vous perdre. Tu peux te perdre.
Alors, on a une balise, on a une balise quand même. Dans le prix de justement ce package-là, il y a la balise, une balise de sécurité qui fait que si vraiment on se perd ou quoi que ce soit, on active la balise qui est reliée par satellite et on arrive à nous positionner, heureusement.
Ils ont le portable, j'ai dit.
Alors par contre, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de téléphone, on pourra juste consulter les mails le soir puisqu'ils installent dans le bivouac une tente pour les mails. Mais voilà, sinon pas de WhatsApp ou quoi que ce soit, pas de téléphone non pendant les 4 jours de la compétition, non.
Alors ce qui va se passer au niveau de la course, le Latifa, c'est juste de comprendre ou de même d'avoir un petit ressenti. Les départs, ils se font à quelle heure quand on sait les températures qu'il y a dans le désert?
Alors là, par exemple, le premier départ, enfin la première convocation qu'on a, c'est à 7h30.
D'accord.
Alors, est-ce qu'on nous fait toutes partir en même temps? Je ne sais pas. Je sais que pour les vérifications la veille, on a des horaires différents en fonction des équipages pour éviter justement le brassage dû à la Covid. Pour les départs, si c'est comme pour le rallye, on a en général un check-up le matin avec un petit peu un rappel de ce qu'il y a à faire et on part toutes. Et comme je te disais tout à l'heure, on part toutes en général. Tout le monde part dans la même direction, mais au bout de même pas une demi-heure, tout le monde s'est déjà perdu parce que tout le monde a pris des directions opposées.
Et c'est là que soit on fait confiance à son instinct, ou on se dit tiens, je vais essayer de suivre un groupe qui finalement est après la mauvaise direction.
On essaie de trouver quelqu'un du pays et d'essayer de lui dire tu peux pas nous montrer.
Ben, eux, de toute façon, ils connaissent les.
Eux, c'est des enfants du pays, donc ils connaissent le désert comme leur poche. Ouais.
Quand on démarre cette première étape, on va dire, de 20 km, est-ce que. Vous avez, normalement, peut-être que vous avez, je ne sais pas moi, pour 3, 4 heures de marche, je ne sais pas combien de pas par jour. Est-ce que si jamais vous êtes perdu, vous pouvez vous retrouver carrément en fin de journée sans retrouver le fameux point d'arrivée?
C'est possible.
C'est une hypothèse.
Ah oui, c'est fort possible. Il y a la balise.
La balise, c'est vraiment.
Mais c'est déjà arrivé sur le rallye des gazelles ou d'autres rallyes où effectivement les équipages étaient complètement perdus. Alors soit quand on a sa tente avec soi, on dort sur place. Et le lendemain, on attend qu'il fasse jour pour essayer de se retrouver. Soit effectivement, on allume la balise, tout en sachant que quand on allume la balise, ça nous fait perdre énormément de points.
Bien sûr, c'est logique. Mais Latifa, attends, il y a une chose aussi que quand on part d'Europe, on arrive dans le désert marocain, quelle que soit la température. Si les personnes se perdent, elles veulent dormir dans le désert. Mais attends, qui dit dormir dans le désert? Il y a quand même des petites bestioles qui sortent du sable la nuit.
Il y a des serpents. Nous, la fois dernière, on a vu des serpents.
C'est pas une surprise.
C'est vrai.
Non, c'est pas une surprise.
Hein? C'est une bombe
anti-serpent. Le cobra, il va te dire, tiens, vas-y, je te crache dessus.
Après, on essaie de pas y penser. Moi, je suis quelqu'un de très peureux là-dessus. Ilham, elle est plus courageuse que moi, mais...
Ah bon?
C'est courageux, Ilham.
C'est nouveau.
Et bah, la dernière fois, on avait vu un serpent. Elle a dormi dans la tente. Moi, j'ai dormi dans la voiture.
Ah oui, c'est vrai. Non. C'est vrai.
Non, mais en plus, dans ces régions, c'est surtout les cobras qui sont.
Oui, c'est aride, c'est une région aride. Donc, de toute façon, on sait à quoi on s'expose.
Ouais.
Mais c'est un risque, c'est comme partout.
Ouais. Et donc, on évite de dormir dans le désert. On évite de sortir sa tente en pleine nuit. Ouais. Même si on est perdu.
De toute façon, on ne va pas avoir le choix.
On n'a pas le choix.
On fait des
bivouacs. Des
bivouacs, on n'a pas le choix.
Toutes les nuits, ils vont dormir sous les tentes.
On n'a pas le choix.
C'est un peu aussi le.
Il y a 4 nuits. Ça, vous avez 4 nuits.
Oui, 4 nuits.
Ça va, c'est tranquille.
Mais
j'ai des kinés, des masseurs, il y a des kinés.
Il y a une tente de masseuse.
et une tante de kiné et médecin en fin de journée. Parce que je pense que, sans surprise, on va avoir, je pense, pas mal d'ampoules.
Parce que
marcher dans le sable, etc., il va y avoir beaucoup de blessures.
Prenez du talc avec vous.
Du talc, pour les chaussures.
Dans les chaussettes, dans les chaussures.
Mais s'il y a des tentes qui sont prévues, alors dans le bivouac qui va être installé, il y a des tentes, donc il y a même des tentes douche pour pouvoir Donc il y a la tente médicale et la tente de massage, effectivement.
C'est bien ça.
Ouais. Il y a même une tente pour aller boire un verre le soir. C'est du désert, mais 2021.
Ah. 2.0.
Et en plus, non, mais il y a
des. Non, il y a la soirée de clôture, effectivement.
Bah oui, on fait un Shanghai-Nawa. On ne peut pas se quitter s'il n'y a pas un minimum de Shanghai-Nawa.
Hein.
Ouais. Le 11 novembre à Airfood.
Ah oui.
À l'hôtel Xalouka.
Ah oui. Vous allez faire la hala.
On espère, si on a encore nos pieds pour le faire.
Oh, tu sais, quand la compétition se termine, généralement, on se lâche.
Elles finiront en talons, t'inquiète.
Oui, t'as raison, Nawal, oui. Ouais.
Ça, c'est bien vu. Je veux dire, les talons sont interdits au désert, mais bon.
Oh, tu sais pas, Nasser. Hein.
Moi, j'ai une question par rapport au rallye des gazelles. Mm-hmm. Cette aventure vous coûte combien ?
Ah, c'est alors le rallye des gazelles en tant que tel, faut compter une marge entre 20 et 30 000. Le Cap Femina, c'est à peu près 15 000 euros. Et là, on est en tout compris avec les billets d'avion et les hôtels, etc., autour de 9 000 euros.
Chacune.
Pour le trinôme. Quand je parle, c'est à chaque fois par équipage.
Ouais.
Ah, d'accord. Ouais.
C'est une grosse somme quand même.
Oui.
De rien, comme je dis, pour aller marcher, c'est une grosse somme. Mais voilà, derrière, il y a tout ce qui est justement les équipements de sécurité, il y a les bivouacs qui sont compris, il y a nos transports. Et voilà, en fait.
Après, tu as la technique de l'ail et de la chaux autour du bivouac. Hein.
Mm-hmm.
C'est bien que les serpents n'aiment pas l'odeur de l'ail et puis de la chaux. Hein.
Ah bah il faut achète 3 kilos d'ail.
De l'huile d'ail.
Ouais bah ah oui, voilà. Là, c'est pour lui l'ail. Hein.
Non, je connaissais pour Dracula.
Voilà. Est-ce que l'événement est filmé?
Oui, il est retransmis.
Ah oui, alors
il va être retransmis.
Vous connaissez de vos nouvelles.
Ben oui, comment qu'on vous voit heureuse, ben oui.
Voilà.
Vous allez prendre encore des couleurs.
La dernière fois, je l'ai vu là, courir derrière le. De serpents.
D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais sur chaque balise, il y aura 5 euros qui sera reversé au Secours Populaire.
Ouais.
Donc, il faut savoir qu'on est 90 équipes et qu'à la fin du parcours, il y aura à peu près 10 000 euros quand même, qui n'est pas négligeable, qui sera reversé au Secours Populaire. Ouais. Donc,
ça, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. Voilà. Non, mais c'est normal qu'on le précise. Hein,
Bien sûr. C'est une belle action derrière.
Vous êtes des ambassadrices, c'est votre rôle que de le dire.
Et le Secours Populaire. Et on est aussi associé Cœur de Gazelle, hein, donc une association caritative qui est liée justement au rallye Aïcha des Gazelles.
Ouais.
Alors nous, quand on était là-bas, il y avait une caravane d'opticiens qui passait. Donc, qui passaient dans les petits villages et qui remettaient des dons. Là, c'est pareil, on arrive avec des dons. Donc, on remet au départ. Là, on nous demande de ramener, par exemple, des baskets neuves parce que ça va sur l'esprit du trek et qui seront redistribués, pareil, aux villageois là-bas. Et donc, l'Action Cœur de Gazelle et le Secours Populaire donc, feront pareil, des caravanes médicales qui passeront là-bas.
Mais comme on dit, la vue, c'est la vie. Donc, évidemment, offrir une paire de lunettes.
Mais c'est exceptionnel parce que nous, quand on passait là-bas, donc on avait des lunettes et puis on avait une vieille dame, moi je m'en rappelle, qui était venue nous demander nos lunettes. Donc parce qu'elle pensait qu'elle avait besoin de lunettes, elle nous avait demandé nos lunettes. Sauf que effectivement, la vue n'est pas la même.
Oui.
Donc pour eux, une paire de lunettes, elle pensait qu'elle allait voir mieux avec. Mais voilà. Mais c'est important et elles sont tellement éloignées des grosses villes que toutes ces caravanes, que ce soit Secours Populaire ou Cœur de Gazelle, c'est très très important pour les populations les plus éloignées.
Mais c'est situé où ? C'est sud-est, sud-ouest, nord, dans le Maroc ?
Alors dans le Maroc, on est Airfood, on est plutôt sud-est.
D'accord. À côté de...
Et après, on se dirige plus vers le centre. Hein, après, voilà.
Ouais.
D'accord.
Alors que quand on avait fait le rallye, on avait vraiment fait du sud-est jusqu'au sud-ouest, parce qu'on était remonté de l'autre côté. Ouais. Et là, comme c'est moi là. Donc pour revenir pour pouvoir suivre le trek, donc il y a un site, donc il y a un live qui sera sur le Trekking Gazelle. Donc à taper sur Google, il y a une page Facebook, pareil Trekking Gazelle, Instagram Trekking Gazelle et une page Twitter aussi Trekking Gazelle.
Au départ, tous ces trinômes partiront par avion directement là-bas.
Oui. Alors, on n'arrive pas directement à Airfood. Hein,
non, non,
Rachidia, Rachidia, Airfood en voiture.
Voilà. C'est ça, il va y avoir un transfert.
Ouais. Exactement. Ouais. Alors, il y en a qui partent par leurs propres moyens comme nous, oui. Et d'autres qui prennent un pack voyage qui est proposé directement par l'organisation.
Ouais. Très bien. Ouais. Ensuite, j'ai remarqué également que dès le départ, quand j'ai lu votre dossier, tout le monde doit avoir son pass sanitaire obligatoire.
Obligatoire. Et un PCR, pareil, pour pouvoir voyager. Ouais. De moins de 48 heures, effectivement.
Ah, en plus du pass, il faut un test PCR.
Oui, pour rentrer au Maroc, il faut un test PCR de moins de 48 heures. Il nous faut notre pass sanitaire. On a un questionnaire médical à remplir. Ouais. On a une visite médicale à faire avant de partir. On a une visite médicale sur place avant de, commencer l'épreuve. D'accord. Donc non, c'est très bien organisé, c'est très bien encadré.
Qui, non, mais qui est l'organisation?
C'est Mayenga. C'est
Mayenga. Oui, c'est Mayenga Event.
Mayenga Event, ceux qui font le rallye des gazelles. Alors, il faut savoir aussi, alors je le dis, mais voilà, le rallye des gazelles qui était à la base une aventure exclusivement féminine, s'est démocratisé depuis quelques années parce que maintenant il existe le GAM, le Gazelle and Men. Donc, des équipages mixtes qui peuvent démarrer donc, cette fameuse aventure du rallye des gazelles en 4x4.
En fait, je me souviens, il y a plusieurs années de cela, j'avais reçu une fille d'origine marocaine qui était responsable à Mayenga et 25.
Oui.
C'est vrai, je l'ai perdu de vue, c'est cette fille-là.
Et donc on en fait un appel.
Voilà, je ne me rappelle même plus de son prénom, ça fait plus de 10 ans maintenant.
D'accord.
Ouais, ouais. Je me souviens d'avoir fait avec elle une émission, Nasser, je crois qu'à l'époque on était du côté de Colonel Fabien. Et bon, après, comment on dit, le temps avance, les événements avancent, il y a eu également des changements dans les structures de ce type de rallye. Bah, je suis arrivé à un point où bon, après on a retrouvé la TFA et Ilham justement lors de du dernier rallye en 2017. Bon, la pandémie est venue tout brisé, et puis là c'est bien parce que le concept, moi, il me plaît. La marche à pied, ben oui.
Ouais. Bon, après, il existe d'autres épreuves. Hein, voilà,
aussi, c'est un nouveau challenge pour nous aussi. Oui. Donc, ouais. C'est toujours. Voilà, on a fait le rallye. Maintenant, on fait le trekking.
En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous essayez de rechercher un genre d'événement pour
nous stimuler aussi. Pour aller, comme elle a dit, pour avoir de nouveaux challenges.
Ouais.
On viendra peut-être vous voir l'année prochaine pour l'ascension du Machu Picchu. Pourquoi pas?
Bah, pourquoi pas?
Bah oui.
Alors, une précision. Il faut me redonner toutes les dates de cette compétition, qui n'en est pas une, mais mine de rien, mais c'en est une quand même.
Ah, avec, c'est une compétition,
voilà, c'est pas une course avec du temps, mais c'est une course d'intelligence. Voilà.
Exactement.
Voilà, sur le nombre de kilomètres parcourus, ceux qui parcourent le moins de kilomètres durant ces 4 jours.
Ouais. Alors, on est dans le désert du 7 au 10 novembre. Le top départ, c'est le 7 au matin,
oui.
Et on finit le 10. Donc, 4 jours. Le 7, le 8, le 9, le 10.
Bon. Par expérience, oui, vous comptez faire combien de temps sur un 20 km à peu près?
Mais en fait,
un 20 km désert, attention, je précise. Hein. C'est pas un 20 km ici à Paris. Hein.
Franchement, pour être honnête, on n'a aucune idée. Pour nous, ça va être aussi une découverte. Donc, on ne sait pas du tout. On va aussi, nous aussi, c'est une aventure. C'est là où on va découvrir. On ne sait pas. Il va y avoir aussi le désert, les conditions là-bas. Ça va être.
C'est aléatoire.
Pour faire 20 km dans le désert, c'est pas comme si vous allez faire 20 km en ville ou comme si vous alliez.
Moi, j'ai ma sœur, et d'ailleurs, je fais un bisou, ma sœur Sakina, qui fait 14 km par jour en une ou deux heures.
Ah oui.
Mais voilà, je ne sais pas combien elle mettrait dans le désert.
Oui, parce que là, elle est faite ici.
Elle est faite ici,
oui,
à Montréal.
Oui. Ouais.
J'embrasse aussi ma sœur Akima et toute ma famille, comme ça.
Ah, c'est bien. Comme ça, tu ne fais pas de jaloux.
Ça n'est pas de jaloux.
Après, on va dire, écoute, la TFA, t'as oublié la famille, hein, ça ne va pas. Bon, là, tu l'as fait. Bah, écoutez, je vous remercie. Si vous avez une dernière question, Nawel.
Alors, moi, je viens de partager les réseaux sociaux, la page Facebook, Les Aventures Solidaires.
Les Aventurières Solidaires.
Oui, voilà, pardon. Et donc, les auditeurs qui veulent des informations, bon, peuvent aller sur votre page Facebook pour vous suivre.
Exactement.
Voilà. Oui. Après, par contre, je pense que sur le parcours, ça va être un peu plus compliqué. Voilà.
Ouais.
On n'aura pas de moyen de communication.
On sait que la journée, vous êtes en train de marcher, donc on attendra.
la Tifa a cité aussi, je pense que
on partage sur les réseaux sociaux.
L'organisation aussi, je pense qu'il y aura pas mal de médias sur place et ça va être rediffusé.
Alors, il me semble que c'est aussi retransmis sur des chaînes comme RMC Sport, TV5 Monde, sur les chaînes comme ça un peu internationales qui relaient des chaînes africaines. Voilà. Et puis, je sais qu'il y aura aussi la chaîne 2M, la chaîne nationale, sur place. Donc, voilà.
Bon, ça va quand même. Pour une première, l'événement est très bien suivi.
Oui, oui, et puis il est médiatisé. Ils ont tout intérêt à médiatiser pour une première. Parce que je pense que là, c'est le lancement. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'à terme, ce soit pareil. Ce
pérénisé.
Soit aussi reconnu, voilà, pérennisé, que ce soit aussi reconnu que le Rallye des Gazelles. Voilà, parce que c'est devenu quand même une institution, le Rallye des Gazelles. Voilà.
Et pourquoi pas le Trekking Gazelle qui va aussi être placé dans cet agenda annuel de l'organisation de Mayonga et Vince.
Ouais. Alors, ce dont on ne se rend pas compte, c'est le nombre d'événements qui se passent quand même dans le désert marocain chaque année avant la Covid et qui reprennent un peu. Ouais. Parce que là, tout à l'heure, on a nommé le Marathon des Sables. Il y a aussi donc, tous les petits rallyes, la Rose des Sables, celui en 4L, le rallye des 4L.
Oui, j'ai vu ça. Oui,
il y a la Sahraouia aussi, qui est un petit peu un triathlon. Donc, il y a du vélo, il y a de la marche, il y a de la natation. Il est très, très connu au Maroc, la Sahraouia, un peu moins ici. Mais voilà, il y a de très, très belles aventures pour toutes ceux et toutes celles qui veulent se joindre à ces événements sportifs. Je vous encourage vivement à aller regarder ce qui se passe.
Très bien. On a fini. N'est-ce pas, mon cher? Alors, je vais demander.
Il faut leur demander qu'elles n'aillent pas trop vite.
Oui.
Je prends leur temps.
Je crois que ça risque pas, ça.
Non, parce que j'allais demander à Sofiane, tu sais, on suivait tout à l'heure quelques résultats. Si tu veux bien nous les communiquer avant de se guider.
Alors, Liverpool a gagné 5-0 à Manchester.
Très bien, merci.
Manchester qui a fini à 10. Et là, il y a Rome-Naples, toujours 0-0. Et on est dans les arrêts de jeu.
Voilà. Merci. En tous les cas, ça a été un plaisir de vous accueillir à nouveau.
Et un plaisir partagé.
Merci de nous avoir reçus.
Et puis,
prochain, on ne sait plus c'est quoi. On doute, on est en train de.
Non, mais on viendra vous voir pour le débrief, pour le retour, pour voir comment
ça se passe.
Et vous allez nous accueillir en tant que gagnante.
Oui, parce que la dernière fois où vous avez gagné, vous n'êtes pas venue.
Oui, c'est vrai.
Ah, t'as vu.
Non, mais on reviendra. C'est vrai que la fois dernière, on n'avait pas fait de débriefing, etc. Mais là, on reviendra à la suite de ce rallye. On fera un petit peu un compte rendu quand on ira mieux. Je pars déjà dans l'esprit. Ça va être.
Ah, j'ai compris. Le retour sera terrible. Donc, on va attendre que le corps reprennent ses esprits et elles vont venir toutes pimpantes sur le plateau, c'est ça?
Exactement, tu as tout compris.
Merci en tout cas d'avoir été nos invités.
Pour clôturer, merci. Je vous remercie. Je clôturerai par le remercier encore une fois nos sponsors. Ouais. Donc voilà, toute l'équipe d'Air Infranet et Detect Infra pour leur soutien.
Tiens, toi, t'as oublié ta famille alors que là, tu fais.
Et moi, j'embrasse mon mari et mes enfants, ma petite Nini et mon petit Nour. Et tous ceux que j'aime.
T'as vu.
Et ma famille, ma maman aussi, je t'aime.
Merci. Et puis, bon retour et surtout bonne course.
Merci
on aura
beaucoup.
Le plaisir de vous retrouver donc pour le débrief d'après, sûrement courant décembre.
Merci beaucoup. Bonne soirée.